لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا إله وأنتم مسلمون، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله en cette soirée du samedi, en cette soirée du samedi 16 Rajab 1429 de l'Hégire, c'est-à-dire le 19 juillet 2008 bi'idhni azawajal. Nous sommes toujours avec le comportement de la musulmane envers sa société. Nous sommes, incha'Allah ta'ala, aujourd'hui au 25e sous-chapitre. La fois passée, dans le 24e, on avait parlé de quoi ? On avait parlé de que la musulmane était généreuse. On avait cité des exemples, masha'Allah, qui montraient la générosité de nos mères, les épouses du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, inshallah, ce qui nous a interpellé le plus, si vous avez remarqué, c'est que Aïcha radiallahu ta'ala anha, en une seule fois d'entrée, elle a fait quoi? Elle a fait au monde en une seule fois, Allahu Akbar, 29 kilos, pour quelqu'un qui est pauvre, qui n'a une date, Allahu Akbar, c'est quelque chose. Al-Muhim, rappelez-moi d'abord, c'est quand Inch'Allah ta'ala salat al-Maghrib chez vous? Comme ça, pour m'arrêter, maison. C'est quand salat al-Maghrib chez vous, le Ghuraba? C'est dans une heure. Inch'Allah, quand c'est l'heure de Maghrib, vous m'avertissez, Inch'Allah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. On avait dit que, aujourd'hui c'est, elle ne rappelle pas ses bienfaits aux bénéficiaires. La musulmane à qui Allah Azza wa Jal a accordé la faveur d'être bienfaisante doit se garder de reprocher ou de rappeler ses bienfaits à ceux qu'elle en avait fait bénéficier. Elle doit le faire de matière, elle doit le faire, c'est-à-dire le bien qu'elle fait, elle doit le faire de manière sincère et le vouer exclusivement à Allah Azza wa Jal, afin de rejoindre ainsi ce que Allah Azza wa Jal a décrit dans le Coran en disant, Coran 2, 262, il a dit, ceux qui dépensent leur bien pour la cause d'Allah, sans faire suivre leurs dépenses d'un rappel ou d'un tort, ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Aucune crainte pour eux, ils ne seront point affligés. Qu'a dit Allah Azza wa Jal ? Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah, à condition quoi ? Sans faire suivre leurs dépenses d'un rappel ou bien d'un tort, ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur. C'est-à-dire que quand on donne quelque chose, on doit, quand on fait un bien, on le fait fi sabilillah azza wa jalla. Et il sera accepté s'il remplit trois conditions. Quand quelqu'un fait un bien, pour que ce bien soit accepté, il faut qu'il remplisse trois conditions. La première, qu'il soit pour Allah azza wa jalla. Je ne l'ai pas fait pour les gens. Cette chose que j'ai donnée maintenant, même si j'étais seul dans ma maison et que celui-là avait frappé à la porte, je lui aurais donné cette chose que je viens de donner devant tout le monde dans la rue. Si cette personne était venue à la maison frapper la porte, je lui aurais donné en tête à tête. Donc c'est une chose que je fais pour Allah Azza wa Jal. La deuxième condition, ne pas faire suivre ce qu'on a fait par un rappel, c'est-à-dire de temps en temps, dire à la personne à laquelle on a fait du bien, rappelle-toi ce que je t'ai donné. Rappelle-toi ce que je t'ai fait. Naam, rappelle-toi si ce n'est pas ou là-bas. Rappelle-toi si ce n'est pas moi, aujourd'hui, tu ne serais pas habillé ainsi. Et comme ça. Yani, on donne, on fait le bien et on fait le rappel. Celui qui fait le rappel, non seulement, vous allez le voir, a annulé son bien, mais encore, il a fait un grand péché. Subhanallah l'azim. Troisième condition, on ne doit pas faire de tort aussi. Quand je donne une chose à quelqu'un ou je fais un bien, je ne lui fais pas tort en même temps. Naam. Certaines personnes, lorsqu'elles donnent par exemple une chose à une personne, en même temps, elles blâment la personne. Elle lui dit, par exemple, espèce de pauvre, ou bien pourquoi toi tu travailles jamais, ou bien je ne sais pas ce qu'elle peut dire, je ne sais pas comment chez vous en Europe, comment on dit ces phrases. Naam. Elle lui dit quelque chose qui lui fait vraiment mal, au point où la personne sent son cœur se déchirer. Au point où la personne n'a plus besoin, n'a plus envie de prendre cette chose. Au point où la personne peut pleurer quand la personne et se sent blessée. Naam. Tayyib. Comme nous l'avons indiqué précédemment, le rappel des aumônes et le tort porté à ceux qui les reçoivent annule la récompense. Annule. La musulmane doit donc s'écarter de cette pratique, notamment si elle lit le verset qui dit 2:264. Ô croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. Ô croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. Vous venez de voir que celui qui fait un bien, si ensuite il fait un rappel ou bien il fait du tort à la personne, il a annulé quoi ? Il a annulé son aumône. Et bien sûr, il a annulé la récompense. Mieux encore, il aura fait un péché. En effet, rappeler ses propres dons à un pauvre qui les a reçus parce qu'il en avait besoin est une attitude humiliante qui traduit un manque de respect à son égard. Cette attitude hautaine et ostentatoire est interdite par l'islam. Parce que l'islam considère que le donateur de l'aumône, la piété, distingue l'un de l'autre. Naam. Quand un frère aide son frère, ou bien une sœur aide sa sœur, cela ne lui permet jamais de le maltraiter ou de lui rappeler perpétuellement sa bienfaisance. Cette attitude est si ignoble et abominable que ceux qui l'adoptent, c'est-à-dire ceux qui donnent des choses et font des rappels ou bien font tort, regardez qu'est-ce qui les attend comme châtiment. C'est vraiment très grave. Écoutez ce que va dire Allah Azza wa Jal et ce que va dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je dis, cette attitude est si ignoble et abominable que ceux qui l'adoptent, c'est quoi leur châtiment ? Ne bénéficieront pas de la rencontre d'Allah au jour de la résurrection. Allahu Akbar. C'est vraiment très grave. C'est vraiment très très grave. Muslim, l'imam Muslim rahimahullah, rapporte à ce sujet, d'après Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, au jour de la résurrection, il y a trois personnes à qui Allah Azza wa Jal n'adressera aucune parole, ni les regardera, ni les purifiera de leurs péchés. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'être l'une de ces trois personnes. C'est qui ? La première. Il a dit, Allah sallallahu alayhi wa sallam répéta ces mots à trois reprises. Avant de vous dire qui sont les trois, je vais répéter la deuxième fois. Au jour de la résurrection, il y a trois personnes à qui Allah Azza wa Jal n'adressera aucune parole, ni les regardera, ni les purifiera de leurs péchés. Ils subiront plutôt un châtiment douloureux. Et le messager d'Allah répéta ces mots à trois reprises. Abu Dharr, qu'Allah Ta'ala l'agrée, lui dit alors, ils seront donc déçus et perdants. Mais qui sont-ils? Il répondit, écoutez bien, qui sont les trois. Le premier, celui qui, par arrogance, laisse traîner son panier par terre. Ça, c'est pour les frères, naam, qui ne veulent pas s'habiller au-dessus des chevilles et qui disent que c'est pas grave, l'essentiel, l'iman, c'est dans le cœur, etc. Naam, on leur dit, ne t'habille pas au-dessous des chevilles. Habille-toi au-dessus, au-dessus. Il dit, c'est pas grave, l'essentiel, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Ce qu'il y a dans le cœur, alors écoute le messager d'Allah, ce qu'il a dit. La première personne qu'Allah Azzawajal ne regardera pas, ne purifiera pas, ne lui adresse pas, ne va pas lui adresser la parole, c'est la personne qui laisse son pantalon ou son chemise descendre au-dessus des chevilles. Non, au-dessous des chevilles. Taïb. La deuxième, celui qui ne cesse de rappeler son aumône à celui qui l'a reçu. Voilà le témoin du dars. Celui qui ne cesse de rappeler son aumône à celui qui l'a reçu. Troisièmement, le troisième personne, celui qui écoule sa marchandise grâce au faux serment. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Donc, c'est très grave pour ces trois personnes. La première, pour celui qui s'habille au-dessous des chevilles pour les hommes. La deuxième personne, celui qui ne cesse de rappeler son aumône à celui qui l'a reçu. Naam, à chaque fois qu'il le rencontre, il lui dit, rappelle-toi ce que je t'ai donné. Si ce n'était pas moi, tu ne serais pas sorti de ce pétrin et des difficultés. Naam, subhanallah al-azim. Toi, si tu as fait cette chose pour Allah, pourquoi tu lui rappelles cette chose? Et si Allah Ta'ala commençait à te rappeler ce qu'il t'avait donné? Qu'est-ce que yani, tu peux comparer ce que tu as donné avec ce que Allah Ta'ala t'a donné? Ensuite, toi, qu'est-ce que tu as donné? Ce que tu as donné déjà appartient à Allah. Tu as donné quelque chose qui ne t'appartient pas, qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et troisièmement, celui qui écoule sa marchandise grâce au faux serment. Beaucoup de gens, pour que la marchandise, naam, écoule, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à jurer par Allah Ta'ala. Et bien sûr, non seulement ils jurent, mais encore ils mentent. Ils mentent. Je jure par Allah que ce que tu vois ici, c'est neuf. Il n'a jamais été touché. Alors que c'est une chose dont il s'est servi peut-être une année. C'est un vêtement peut-être qu'il a déjà mis des mois. Il te dit vêtement neuf. Je ne l'ai jamais touché. Et il va jurer. Je jure par Allah que cette chose est neuve. Naam. Comme ceux qui vendent la voiture. Je jure par Allah qu'on m'a donné, par exemple, 50 millions que je n'ai pas voulu vendre. Alors que, ou bien personne ne lui a donné cette somme, ou bien personne ne lui a rien donné. C'est-à-dire, on ne lui a rien donné, ni cette somme, ni moi. Et il va jurer par Allah qu'on lui a donné cette somme et il n'a pas voulu vendre. 26e, que Allah Ta'ala nous en préserve. 26e, elle est indulgente. Elle est indulgente. J'attends, Inch'Allah Ta'ala, que vous écriviez. Et n'oubliez pas de me rappeler Salat al-Maghrib. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Une musulmane avisée, imprégnée des principes de l'islam et de ses valeurs morales, naam, est indulgente. Est indulgente. Elle s'exerce à maîtriser son irritation et à dominer son ressentiment jusqu'à ce qu'elle atteigne un stade supérieur d'indulgence spontanée. Allah Ta'ala dit dans le Coran 3, 134, il a dit « Ceux qui dominent le ressentiment et pardonnent à autrui, car Allah Ta'ala aime les bienfaiteurs. Ceux qui dominent le ressentiment et pardonne à autrui. » C'est-à-dire ceux-là, Allah Azza wa Jal les aime, car Allah Ta'ala aime les bienfaiteurs. Il dit aussi, Coran 41, verset 34-35. Il a dit, « La bonne et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité, c'est-à-dire une adversité, devient presque un ami intime. Mais ce privilège n'est attribué qu'à ceux qui endurent et il n'est attribué qu'au destinataire d'une grâce immense. Naam. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Allah Ta'ala a promis que ça va donner comme résultat que celui avec lequel tu avais une adversité devient comme un ami intime. Ensuite, Allah Ta'ala a dit, mais bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui peut faire cette chose. Car ce privilège, le fait de pouvoir repousser le mal par le bien, n'est attribué qu'à ceux qui endurent. Et il n'est attribué qu'à ceux auxquels Allah Azza wa Jal a destiné une grâce immense. Quant aux autres personnes, naam, ils rendent tous et toutes le mal par le mal. La gifle par la gifle. Naam, le coup par le coup. Et comme ça. Maîtriser ses réactions, patienter, contenir sa rancune et manifester son indulgence quand on est irrité, quand on est irrité par quelqu'un, tout cela représente successivement l'une des attitudes les plus nobles et les plus appréciées par Allah Azza wa Jalla. D'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Ashaj, il lui a dit, Al-Ashaj ibn Qais, il lui a dit, tu es doté de deux qualités qu'Allah Ta'ala aime. Regardez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Al-Ashaj ibn Qais, un compagnon. Il lui a dit, Allah Ta'ala, il lui a dit, tu es doté de deux qualités qu'Allah Azza wa Jal aime. Quelles sont ces deux qualités que, si on les a, Allah Azza wa Jal aime ces qualités? C'est quoi? Écoutez, la première, l'indulgence. Tu pardonnes. Indulgence. La deuxième est la patience. Naam, tu es patient. À un homme qui lui demanda de lui donner un conseil, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné, ne te laisse pas emporter par la colère. Alors l'homme lui demanda conseil une deuxième fois. Le messager d'Allah répondit, ne te laisse pas emporter par la colère. Alors l'homme demanda conseil une troisième fois. Le messager d'Allah lui répondit, ne te laisse pas emporter par la colère. Naam. Hadith rapporté par Bukhari. La colère est certes un de lui-même, sans le susciter volontairement. Conçue comme telle, la colère est indépendante de notre volonté. Ça, est-ce que quelqu'un, yani, si on lui fait mal, on dit des choses de lui, ou là on le vole, ou là je ne sais pas quoi, yani, il ne se met pas en colère. Au contraire, s'il ne se met pas en colère, c'est que peut-être c'est quelqu'un qui est malade, car la colère c'est quelque chose de naturel. Mais, après, être devenu en colère, c'est quoi la réaction? C'est ça l'islam. L'islam ne te dit pas, ne te mets pas en colère. Tu n'es pas un ange. Tu n'es pas un ange. Le messager d'Allah, alayhi salallahu alayhi wa sallam, lui-même, se mettait en colère. Allah Azza wa Jalla lui-même, yagdab, se met en colère. Mais, c'est quoi la réaction après s'être mise en colère? Naam. C'est pour ça qu'il dit ici, si cette chose, la colère, est indépendant de notre volonté, cependant, il est dans le cadre de notre pouvoir de la contenir et de nous habituer à ne pas être irascible. Ceci dit, l'islam ne nous ordonne pas d'éradiquer, d'enlever par les racines, d'éradiquer le sentiment de la colère, car cela est propre à une personne souffrant d'un déséquilibre dans sa structure psychique. Naam, Allah Ta'ala ne te demande pas de, il faut éradiquer la colère. Sinon, comme j'ai dit, c'est quelqu'un de malade, quelqu'un qui ne se met jamais en colère. Mais l'islam nous recommande plutôt de maîtriser notre colère, de la canaliser et de la manifester dans les circonstances où elle mérite d'être manifestée. La colère n'est pas seulement tolérée, mais recommandée en islam. Lorsqu'il s'agit d'une situation où les ordres d'Allah Azza wa Jal sont bafoués, car elle n'aura pas comme but l'autosatisfaction, mais plutôt la satisfaction d'Allah. Donc je résume. Il a dit que la colère, naam, non seulement c'est une chose naturelle, mais à condition que, quand on soit en colère, qu'on se maîtrise, On se maîtrise. On ne fait pas comme les gens qui, lorsqu'ils se mettent en colère, astaghfirullah, ils insultent Allah Azza wa Jal. Ou bien ils insultent l'islam. Ils insultent comme ça. Non, ce n'est pas comme ça que fait le musulman, le vrai musulman. Mais, étant en colère, on fait comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis quoi? Tu dis A'udhu billah min shaitan rajim. Si tu es debout, tu t'assois. Si tu es assis, tu te mets sur de côté, sur ton flanc. Naam, ton flanc droit. Et comme ça. Naam, comme nous apprend le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Mais il a dit ici, non seulement donc la colère, c'est quelque chose de naturel, mais des fois en islam, il est bien de se mettre en colère. Quand est-ce? Quand les ordres d'Allah Azza wa Jal, ou bien sa sharia, son islam, est bafoué. Dans ce cas, si on ne se met pas en colère, ça veut dire que quoi? Que on n'a pas la perfection de la foi. Notre foi est faible. C'est pour ça que, si tu vois tes enfants, qui, masha'Allah, maintenant, sont pubères, et ne font pas la prière, ou bien ne la font pas à l'heure, et ça te dit rien, ça, si tu ne te mets pas en colère, ça veut dire que ta foi est vraiment faible. Naam. Quand l'homme voit sa femme, qui sort comme ça avec le maquillage, qui sort parfumé, et ne se met pas en colère contre elle, ça veut dire que sa voix est faible. Sa foi est faible. Naam. Quand la femme voit son époux, qu'il a rasé sa barbe, il a jeté le kamis, il ne va plus à la mosquée, et elle ne bouge pas le petit doigt, même si elle a peur de lui, si c'est quelqu'un de violent, elle ne ressent rien dans son cœur, elle ne ressent rien, elle ne sent pas le cœur chagriné, gros, peiné, alors ça veut dire que sa foi est faible. Sa foi est faible. Il dit ici, il arrive donc à la musulmane de manifester sa colère, mais elle le fait à bon escient. Elle le fait à bon escient que quand elle constate des gens transgresser les commandements d'Allah Azza wa Jal ou ne leur accorder aucune observance. Tel fut le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et telle est l'attitude que toute musulmane doit adopter. Bukhari et Muslim rahimahumullah rapportent que Aïcha, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée, a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se vengeait jamais pour sa personne. Il ne le faisait, c'est-à-dire se venger, que lorsqu'on transgressait ce que Allah Azza wa Jal a consacré. C'est alors pour Allah qu'il exerçait sa vengeance. Hadith rapporté par Bukhari. Les traditions indiquent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ces circonstances, se mettait en colère. Dans des circonstances pareilles, se mettait en colère, c'est-à-dire quand, et même que son visage changeait de couleur quand il remarquait que quelqu'un portait atteinte à l'islam, appliquait négligemment ses préceptes, ou bien se montrait permissif envers les lois de l'islam. On rapporta ce sujet qu'un jour et lui dit: ô messager d'Allah, il m'arrive de ne pas assister à la prière du sobh, la prière du matin, à la mosquée. Il m'arrive que je ne vienne pas à la prière. À cause de qui? À cause d'un tel. Un tel. Pourquoi? Car il nous préside, c'est lui qui guide la prière, et il la prolonge trop. Il la prolonge trop. Pris de colère, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit alors un serment, un prêche, à propos duquel les compagnons dirent qu'ils n'ont jamais entendu de sermon aussi violent. Il leur dit: ô gens, certains d'entre vous repoussent les croyants du droit chemin. Ensuite il dit: quand l'un d'entre vous préside les gens en prière, qu'il l'accomplisse brièvement, car derrière lui, il y a quoi? Il y a des personnes âgées, des enfants et des personnes affairées qui ont des affaires, rapportées par Bukhari et Muslim. On rapporte aussi qu'il a manifesté sa colère quand, de retour d'un voyage, c'est l'heure de la salat. Je termine ça. On rapporte aussi qu'il a manifesté sa colère quand, de retour d'un voyage, il constata que Aïcha radiallahu ta'ala anha avait accroché dans sa chambre un rideau orné de figurations représentant des êtres humains. Alors son visage, sallallahu alayhi wa sallam, changea de couleur. Il prit le rideau, le déchira. Puis il dit à Aïcha, « Oh Aïcha, ceux qui subiront le châtiment le plus pénible au jour de la résurrection seront ceux qui auront tenté d'imiter Allah Azza wa Jal dans sa création. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Je vous donne, inshallah ta'ala, 10 minutes pour faire la prière. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fais saut. Naam. Fais saut. Alhamdulillah. Donc, on avait dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se vengeait jamais sur ce qu'on lui faisait personnellement, mais se mettait en colère si quoi? Si on venait à bafouer quelque chose qui a un rapport avec l'islam. Là, on fait du tort, ou là, on veut faire fuir des gens de l'islam, et comme ça. Le dernier hadith qu'on a cité, c'est où le messager d'Allah, alayhi salatu salam, a remarqué que Aïcha, avait quoi? Avait mis un rideau où il y avait des formes humaines, des figurations, et que le messager alayhi salatu salam s'est mis en colère. Mieux encore, il déchira le rideau et il lui a dit que au jour de la résurrection, ceux qui subiront le châtiment le plus pénible seront ceux qui auront tenté d'imiter Allah Azza wa Jalla dans sa création. Allah sallallahu alayhi wa sallam manifesta aussi sa colère quand Usama ibn Zayd, c'est-à-dire son fils adoptif, vint intercéder auprès Usama ibn Zayd, le fils de Zayd, le fils de Zayd, vint intercéder auprès de lui en faveur d'une femme Makhzoumite, c'est-à-dire de la tribu Makhzoumiya, qui avait volé. Alors ce jour-là, certains Korachites se dirent, qui ira parler au prophète alayhi salatu salam en faveur de cette femme, c'est-à-dire pour qu'il ne lui coupe pas sa main. Alors ils convinrent que seul Usama, le bien-aimé du prophète alayhi salatu salam, aura l'audace de le faire. Ce que Usama radiallahu ta'ala anhu fit. Mais cela suscita la colère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui répondit sur un ton réprobateur, oses-tu intercéder alors qu'il s'agit d'une peine déterminée par Allah Azza wa Jal? En colère, bien sûr. Oses-tu intercéder alors qu'il s'agit d'une peine déterminée par Allah Azza wa Jal? Ensuite, il se leva et prononça un discours vigoureux dans lequel il a dit, si ceux qui étaient avant vous ont péri, c'est parce que si l'un de leurs notables volait, il le laissait sans punition. Tandis que si l'un de leurs déshérités et pauvres volait, il lui appliquait la sanction déterminée par Allah Azza wa Jal. Ensuite il a dit, par les serments d'Allah, c'est-à-dire je jure, si c'était Fatima, la fille de Muhammad, qui commettrait le vol, que je lui couperais la main. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, Usama radiallahu ta'ala anhu est venu faire une intercession. Et il ne savait pas que dans une chose pareille, il n'y a pas d'intercession. C'est-à-dire que quand quelqu'un vole, si le gouvernant n'a pas encore eu cette nouvelle, alors qu'il fasse le repentir entre lui et Allah Azza wa Jal. Mais si maintenant il a été chez le gouvernant, ou bien la police, par exemple, l'a attrapé, c'est trop tard pour lui. On doit lui couper sa main s'il a rempli les autres conditions que vous connaissez. C'est pour ça que dans ce hadith, j'ai lu dans une autre version où la personne, dans ce hadith, dans un autre hadith, il y avait Safwan radiallahu ta'ala anhu, ibn al-Mu'attil, qui dormait dans la mosquée. Il y a quelqu'un qui est venu lui voler sa cape. Sa cape. Quand on a, ensuite, ils ont pris le voleur et ils sont allés chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le messager d'Allah, alayhi wa sallam, a ordonné qu'on lui coupe sa main. Alors, Safwan, radiallahu ta'ala anhu, qui ne savait pas, je lui donne la cape comme cadeau. Ma cape, c'est un cadeau pour lui. C'est-à-dire que c'est pas la... C'est comme si je lui avais donné. Et le messager d'Allah lui a dit, et maintenant tu dis ça, c'est-à-dire, si tu l'avais dit auparavant, d'accord. Si, lorsqu'il t'avait volé, naam, tu l'avais pris, ensuite tu lui as dit, prends la cape, naam, ou bien, je ne vais pas déposer plainte. Là, d'accord. Mais maintenant que moi j'ai su, maintenant que le gouvernant sait, c'est trop tard pour le voleur et c'est trop tard pour celui qui a commis le crime. Al-Muhim. Donc le messager d'Allah s'est vraiment énervé quand son fils adoptif, quand celui-là, le bien-aimé, est venu essayer de faire l'intercession. Et il a fait un discours vigoureux où il a montré que, par Allah, si Fatima, sa fille, avait volé, il lui aurait coupé la main. Telles furent les manifestations de colère chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et tels furent leurs motifs pour Allah et non pour des raisons personnelles. Tel est donc le bon comportement que toute musulmane consciencieuse doit observer. Elle doit dominer sa colère et ne la manifester que lorsqu'il s'agit d'une réaction suscitée par des raisons purement religieuses. 27e, elle n'est ni haineuse ni rancunière. Alhamdulillah, barakallahu fik. Une vraie musulmane ne porte pas en son cœur haine et ne se laisse pas obséder par la rancœur. Car les principes de l'islam purifient tout son être de ses sentiments et les évacuent par l'entremise des sentiments de fraternité, d'amour, de tolérance et de pardon. La haine, l'hostilité et la vengeance sont des sentiments que l'islam a bannis en recommandant l'indulgence et la compassion envers les autres. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Coran 3, 134, il a dit: ceux qui dominent le ressentiment et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaiteurs. Pour pouvoir dominer son ressentiment, puis atteindre le degré d'indulgence et de pardon, constitue un comportement pénible que seuls les croyants aux âmes pures peuvent respecter en permanence. Naam. Seuls les croyants aux âmes purifiées d'agressivité, de vengeance et de haine réussissent à contenir le ressentiment devant des situations provocantes. C'est pour cela qu'ils ont le mérite d'atteindre le degré de la perfection. Et Allah Ta'ala aime les bienfaiteurs. Naam. Quand on te fait du mal, quand on dit des choses de toi, quand on te vole, quand on te calomnie, quand on fait de la médisance sur toi, naam, il y a quelque chose dans ton cœur, dans ton nefs, qui ne va pas te laisser dormir. Quelque chose, naam, qui va te brûler ton cœur. Naam, pourquoi on a dit ça? Pourquoi on a fait cela de moi? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Naam, et ça ne va pas te laisser le cœur apaisé. Naam. Alors, pour pouvoir dépasser ce stade, il faudrait vraiment avoir une perfection de la foi. Naam. Bien sûr, chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Le fait de dire, ça ne fait rien ce qu'ils ont dit de moi. L'essentiel, c'est que Allah Ta'ala est ravi de moi. L'essentiel, c'est que Allah Ta'ala est ravi de moi. Naam. Rappelez-vous, si vous voulez, ce qui s'est passé à notre mère, Aïcha radiallahu ta'ala anha. Naam. Quand on a dit d'elle, la pieuse, la purifiée, on a dit d'elle qu'elle avait fait la zina. Qu'Allah Ta'ala brise le dos de ceux qui ont dit cette chose. Naam. Elle, radiyallahu ta'ala anha, comme elle a dit dans Sahih al-Bukhari, elle a dit pendant 3 nuits, j'ai pas fermé les yeux. Comment peut-on fermer les yeux avec un cœur blessé qui brûle? Un cœur, si on pouvait le voir à découvert, on verrait du sang couler de ce cœur. Naam. Une femme, l'une des plus pieuses, l'une des plus pures, l'une des meilleures épouses du messager d'Allah, on dit d'elle quoi? On dit pas d'elle, elle est mauvaise ou elle est vilaine, ou là. On dit elle a fait la zina. La zina, la femme du messager d'Allah. Ça veut dire, elle va perdre tout devant Allah Ta'ala, et elle va perdre tout aux yeux du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'aimait tant, qui l'aimait tant. Maintenant, si sa femme a fait la zina, hein, c'est sûr qu'il ne va plus l'aimer. Imaginez qu'est-ce qu'elle a souffert, radiyallahu ta'ala anha. Mais, vous savez sûrement comment Allah Azza wa Jal l'a fait triompher en faisant descendre des versets qui prouvent quoi? Qui prouvent qu'elle n'était pas coupable. Qui prouvent, comment qu'on dit le mot, qu'elle était, je n'ai pas trouvé le mot, qui prouve donc que yani, elle était pure et que ce ne sont que des naam pour l'innocenté. Qu'elle était innocente, masha'Allah, qu'elle était innocente. Tayyib. Grâce à cette notion morale d'essayer d'être au-dessus des sentiments perdus, est parvenu à purifier les âmes des croyants et transformer leur haine en amour fraternel et leur hostilité en loyauté inconditionnelle. En loyauté inconditionnelle. L'exemple de Hind bint Utba, l'épouse d'Abu Sufyan, radiallahu ta'ala anhuma, les deux, illustre parfaitement cette métamorphose suscitée par la foi. Avant sa conversion à l'islam, cette femme qui s'appelle Hind bint Utba, cette femme nourrissait une haine maladive et manifester une hostilité hystérique à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa famille. Elle fut tellement haineuse à l'encontre de l'islam et de ses adeptes que lors de la bataille de Uhud, elle mutila, subhanallah al-azim, mutilée, elle mutila le corps de Hamza. L'Allah sallallahu alayhi wa sallam la déclara passible de peine de mort. Lorsqu'il a conquis la Mecque, il y avait 5 ou 6 personnes, il a dit ceux-là, ils sont passibles de peine de mort, je ne leur pardonne pas. Entre autres, Ikrimah, Aqra ibn al-Ahbas et celle-là, Hind. Naam. Mais dès sa conversion à l'islam, l'aversion et la haine qu'elle portait se transformèrent immédiatement en amour et loyauté. On rapporte à ce propos qu'elle a dit une fois au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, il n'y avait pas une famille sur terre que je désirasse voir humiliée autant que ta famille. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une famille sur terre que je désire voir honorée autant que ta famille. Hadith rapporté par Bukhari. Ainsi, pour l'amour d'Allah Azza wa Jal, la vengeance disparaît, l'aversion se dissipe et l'affection vient s'installer dans le cœur de Hind pour en déraciner définitivement haine et rancœur. Naam. Je fais ici juste une petite remarque. Dans ce hadith, à sa fin, bien sûr l'auteur ne l'a pas cité, car ça n'a pas rapport avec le dars. C'est pour ça que l'auteur s'est arrêté ici. Mais, dans ce hadith, moi je l'ai lu dans le Bukhari, après que cette femme, Hind, radiallahu ta'ala anha, ait dit cette chose au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit, mon mari, c'est-à-dire Abu Sufyan, elle lui a dit, mon mari est quelqu'un d'avare, et il ne me donne pas ce dont j'ai besoin, moi et mes enfants, puis-je prendre de lui ce dont j'ai besoin? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, na'am, prends ce dont tu as besoin, toi et tes enfants, fil ma'ruf. Ma'ruf, c'est-à-dire dans les normes, hein, dans les normes, faut pas exagérer. Na'am. Tayyib. Ici, ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un veut demander une chose à quelqu'un, une chose, na'am, dans la mesure du besoin, jazakallahu khairan. Ce que je veux dire, on prend de ce hadith et de ce qui s'est passé avec cette femme et le messager d'Allah, que quand quelqu'un veut demander une chose à quelqu'un, na'am, ou bien quelqu'un veut dissuader une personne de quelque chose, il faut lui dire par exemple, faut pas faire cette chose, elle n'est pas bien, ou bien il faut faire cette chose. Et comme ça, na'am, il est dans le bon comportement de ne pas commencer comme ça directement par la chose, mais de commencer, d'essayer de faire une introduction en essayant d'épancher le cœur de la personne avec laquelle on va parler. C'est comme si, par exemple, on commence par lui faire des éloges comme ça, ensuite on lui dit, est-ce que, par exemple, vous pouvez m'aider ou telle chose. Regardez, Hind ici n'est pas allé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire comme ça directement, Ya Rasulallah, mon mari est avare, est-ce que je prends son argent? Mais avec hikmah, avec sagesse et douceur, elle essaye d'épancher son cœur en lui disant d'abord que il n'y avait pas un plus grand ennemi pour moi que toi et ta famille. Ensuite, elle lui dit, maintenant, mashallah, il n'y a aucune famille ni une personne que je n'aime plus que toi. Imaginez maintenant qu'elle a épanché le cœur du messager d'Allah en disant de douces paroles comme celle-là. Ensuite, elle lui dit, mon mari est ceci, cela, est-ce que je fais ceci, cela? Le messager d'Allah lui a dit, na'am, tu peux faire cette chose à condition que ça soit dans la mesure du besoin. Na'am. Donc, c'est comme ça qu'on fait, on ne va pas directement. On commence par faire une petite introduction, na'am, pour attirer, inshallah ta'ala, la personne et lui dire la chose. C'est d'ailleurs, il y a beaucoup de cas, beaucoup d'exemples dans la sunna. Na'am, une fois même, j'ai cité ces choses, subhanallah l'adim. Je les ai écrites dans une feuille que j'ai perdue. Comme ça, quand je lisais Sahih al-Bukhari, j'écrivais à chaque fois que je trouvais quelque chose qui allait en ce sens. Maintenant, je me rappelle aussi que, regardez, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, quand, yani, khlas, c'est la soif, c'est la grande chaleur, c'est ceci, cela, les gens, que vont-ils dire? Ils vont dire, et si on allait à Adam, alayhi salam, il va nous faire l'intercession auprès d'Allah, azza wa jalla. Et vous savez, ils vont aller chez Adam, il va dire, non, ce n'est pas moi, allez chez Nuh, Nuh va dire, allez chez Ibrahim, et comme ça. Jusqu'à ce qu'ils arrivent chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils veulent lui demander qu'il fasse l'intercession. Dites-moi, est-ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est allé directement à Allah Ta'ala et lui dit, Allah Ta'ala lui aurait accepté son intercession. Parce qu'il n'y a pas une personne aimée par Allah, plus que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah et ibn Amina. Naam, sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'a fait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Il a commencé par faire quoi? Une prosternation. Et il n'y a pas une chose que Allah Ta'ala aime comme la prosternation. Naam. C'est pour ça que la salat, c'est le plus grand pilier de l'islam. Naam, après shahada. Après shahada, bien la salat directement. Naam. Et dans la salat, qu'est-ce qu'il y a de plus important? C'est la prosternation. Car quand tu te prosternes, tu reconnais, naam, tu reconnais que tu n'es rien et que tu es prêt à poser ton nez sur le sol et le remplir de poussière pour la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Donc le messager va commencer par faire la prosternation. Naam. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Ya Allah, fais-moi l'intercession. Non, il va commencer à faire les éloges d'Allah Azza wa Jalla, à dire Alhamdulillah, Alhamdulillah. Et il a dit, je ferai des éloges que Allah Ta'ala m'aidera à faire ce jour-là. Je ne les connais pas maintenant. Ce jour-là, Allah Ta'ala ouvrira ma poitrine et je dirai des choses, des éloges. Et ensuite, il dira, Ya Allah, fais-moi l'intercession. Allah Ta'ala lui dira, lève ta tête, na'am, et demande, tu as ce que tu veux. Regardez comment le messager d'Allah n'a pas commencé directement. Donc c'est comme ça, la sagesse, la hikmah, de ne pas commencer des choses directement, mais aller doucement, et arriver pour arriver à la fin. La même chose quand on veut par exemple dissuader quelqu'un, ou bien on veut lui dire de ne pas faire cette chose. Regardez, ce n'est pas bien de dire par exemple directement à une personne, yani, ne fais pas cette chose, yani, attention, etc. La personne, yani, c'est difficile pour qu'elle accepte. Elle se dit pourquoi cette personne me donne des ordres? Qui est-elle? Elle donne des ordres, elle dit ne fais pas ça. Qui est-elle? Non. Mais si, avec sagesse, tu lui fais comme ça un peu d'éloge, ensuite tu lui dis, c'est parce que je t'aime que je ne voudrais pas que tu fasses cette chose, etc. Cette chose que tu fais n'est pas bien, c'est sûr que la personne ne la fera pas. Rappelez-vous le hadith authentique où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu Aba Bakra, ce n'est pas Abu Bakr Siddiq, c'est un autre qui s'appelle Abu Bakra, radiyallahu ta'ala anhu. Il est rentré dans la mosquée et Abu Bakra, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est rentré, il a vu les gens qui étaient déjà inclinés. Et vous savez que si tu veux que cette rak'at soit yani, acceptée, il faudrait que tu rentres avec ceux qui font la prière avant que l'imam ne lève la tête. Si l'imam lève la tête du ruku', il dit Sami Allah liman hamida, ça veut dire cette raka'a, tu l'as ratée. Donc, lui, quand il a vu les gens dans le ruku', qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont loin de lui, ils viennent rentrer dans la mosquée, ils sont là-bas, loin de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incliné, il a fait le ruku', il a dit Allahu Akbar debout, ensuite il a fait le ruku', ensuite il a commencé à courir tout en étant raka'a, tout en faisant le ruku', il court comme ça. Pour rentrer avec les autres dans les rangs. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que quand il faisait la prière, il avait l'une des particularités que les autres n'ont pas, c'était quoi? C'était qu'il voyait ce qui se passait derrière lui. Il voyait ce qui se passait derrière lui. Quand il a terminé la prière, le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il veut lui dire, ne fais plus cette chose, ça ne se fait pas. Mais est-ce que le messager d'Allah lui a dit comme ça? Il dit, زادك الله حرصا ولا تعود زادك الله حرصا يعني que الله عز وجل t'ajoute de cette mashallah du fait que tu sois soucieux pour la salat, soucieux pour que tu attrapes cette rak'a, que الله عز وجل يعني t'aide et t'ajoute de cette chose. Ensuite il lui a dit, hein, quand tu lui as fait cet éloge, il lui a dit et cette doua fait pas, non, ça se fait pas de faire le recours et courir. On ne court pas. On attend qu'on se rapproche des gens et on dit Allahu Akbar tout en étant debout et on fait le recours et on marche un pas ou deux pas et on rentre avec eux. Mais ce n'est pas tout en étant incliné, on va courir. On va courir 10 ou 15 mètres. Naam. Que Allah Azza wa Jalla nous apprenne notre dîn, il nous apprenne la hikma aussi, il nous apprenne la hikma. Naam. Et où est-ce qu'on était? Non, il a dit dans un style subtil et merveilleux, dans un style subtil et merveilleux, le Coran nous apprend la meilleure des méthodes pour mettre un terme définitif à tout sentiment haineux. Dans les versets que nous allons citer, Allah Azzawajal affirme qu'il est du droit de celui qui subit une agression de riposter. Naam, il est du droit de celui qui subit une agression de riposter, car il est permis de sanctionner un préjudice par un préjudice similaire. Naam, il est permis. Cependant, il délivre subtilement la personne agressée des sentiments de vengeance en lui indiquant les mérites de l'indulgence et du pardon. Et en soutenant qu'un tel comportement est la meilleure résolution à prendre. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran 42, verset 39-43, il a dit, ceux qui atteignent d'injustice ripostent, c'est-à-dire c'est permis. Ensuite il a dit, la sanction d'une mauvaise action, c'est quoi? Est une mauvaise action identique. C'est permis. Il t'a donné une gifle, tu lui donnes une gifle. il a craché sur toi, tu craches sur lui. Naam. Il montre conciliant sa récompense incombe à Allah Azzawajal. C'est pour ça que certains ulama ont dit ici, ils ont dit, sauf s'il te donne une gifle, ne lui rends pas la gifle, car il y a un hadith qui est interdit de frapper au visage. Et s'il te donne un coup sur la tête, donne-lui sur la tête. Un coup de poing dans le dos, un coup de poing dans le dos. Et comme ça, il a dit c'est permis. Naam. Mais quiconque pardonne et se montre conciliant, sa récompense incombe à Allah Azzawajal. Maintenant, il t'a donné un coup de pied. L'islam t'a fait choisir entre deux choses. Ou bien de lui donner un coup de pied et tu n'as rien chez Allah Azzawajal. Ou bien de pardonner et tu as des récompenses. Alors choisis. Ou bien tu veux ton autosatisfaction, ou bien tu veux la satisfaction d'Allah Azzawajal. Ou bien tu veux, naam, que ton cœur soit apaisé en lui donnant le coup de pied et tu ne marques rien. Ou bien tu pardonnes et tu as marqué peut-être 10 000 récompenses chez Allah Azzawajal. Naam. Lorsque Aïcha radiallahu ta'ala anha fut l'objet de la calomnie touchant à son honneur, son père Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu fut tellement affligé par ce drame qu'il décida de priver tous les calomniateurs des aides qu'il avait l'habitude de leur donner. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu était tellement riche que, comme je vous ai dit la fois passée de mon ami Allah yarhamou, que il avait des gens auxquels chaque mois ou bien à chaque fois il les aidait en leur donnant une paye, en leur donnant à manger et comme ça. Alors, quand il a entendu ce qu'on a dit sur sa fille, la pieuse et la pure, il y avait une des personnes à laquelle il donnait de l'argent, il l'aidait. Une de ces personnes avait calomnié Aïcha. Alors, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu a juré par Allah le Tout-Puissant qu'il ne donnerait plus à cette personne ce qu'il lui donnait, comme bienfait. Alors, ce fut de sa part une réaction logique, puisque c'est leur comportement ingrat qui le poussa à les priver de sa bienfaisance. Cependant, connaissant la sincérité et la pureté d'âme d'Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, Allah Azzawajal ne l'abandonnera pas à ce sentiment de vengeance, mais il l'orienta au contraire vers l'indulgence et le pardon. Alors Allah Azzawajal, à cette occasion, a fait descendre le verset suivant spécialement sur Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Il lui a dit, Coran 24-22, il a dit, que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire de dons aux proches, car cette personne c'était justement aussi une proche à Abu Bakr Siddiq, aux pauvres et à ceux qui émigrent pour la cause d'Allah. Plutôt qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah Azzawajal vous pardonne? Allah est le très indulgent et le très miséricordieux. Dès que Abu Bakr Siddiq a entendu ce verset et il a entendu à la fin où Allah Ta'ala a dit n'aimez-vous pas qu'Allah Azzawajal vous pardonne? Abu Bakr a dit si, j'aime qu'Allah Ta'ala me pardonne. Et il n'a pas arrêté les bienfaits qu'il donnait à la personne qui a calomnié sa fille. Allahu Akbar. Quelqu'un qui calomnie, je ne sais pas qui, ta mère ou ta soeur ou ta femme, naam, et tu lui pardonnes, et chaque mois tu lui donnes la paye que tu lui donnais, et chaque mois tu continues à lui faire du bien. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a calomnié ta mère ou bien ta femme ou bien ta soeur. Chose de très très grave. Et tu lui pardonnes. Non seulement tu lui pardonnes, mais encore tu l'aides car il est nécessiteux. Il faut dire que Yani vraiment ont atteint un haut degré, naam, ceux qui peuvent naam, maîtriser yani, leurs sentiments et se contenir au point de ne vivre que pour Allah Azzawajal. Naam, Allah Ta'ala aime. Si je donne à cette personne et je continue à lui faire des bienfaits, Allah Ta'ala aime ça. Naam, Allah Ta'ala aime. Alors moi, je donne à cette personne et je m'en fous ce qu'il a dit sur ma fille ou là sur ma femme. L'essentiel, c'est qu'en lui donnant, Allah est ravi de moi. Allahu Akbar. Il faut dire que nous, yani, il faut dire, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que j'ai le cœur apaisé et je viens de prendre ma vengeance. Je viens de prendre ma vengeance et maintenant je vais dormir tranquille. Alhamdulillah. Même si c'est une chose que Allah Ta'ala n'aime pas, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, c'est que, alhamdulillah, j'ai pris ma vengeance. Dans une société basée sur la foi et la fraternité qui en découle, les individus ne s'adonnent pas aux critiques tendancieuses, aux préjugés et à la vengeance ou bien l'égocentrisme. C'est une société, l'islam, société où les relations entre individus sont dominées par la fraternité, l'indulgence et le pardon, qui constituent autant de valeurs auxquelles l'islam appelle tout croyant. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran 41:34-35, il a dit: la bouche le mal parce qu'il est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une adversité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège, bien sûr, n'est attribué qu'à ceux qui endurent et il n'est attribué qu'aux destinataires d'une grâce immense. Si au mal, écoutez bien, si au mal, on répond systématiquement par le mal, cela risque d'attiser le feu de la haine et de l'entretenir. Si par contre, on répond par le bien, la haine s'éteint, la colère se dissipe et les stratagèmes vengeurs s'évaporent. En adoptant la seconde attitude, c'est-à-dire pardonner, etc., par un sourire amical ou une parole, une bonne, les deux ennemis déclarés deviennent des amis intimes et sortent tous deux de leur mésentente, jouissant ainsi d'un succès sans égal. La femme musulmane doit donc s'armer de patience et de self-control. Self-control dans les situations qui provoquent sa colère ou quand elle est victime d'un tort. Elle doit surtout surmonter son amour propre et répondre au bien et répondre au mal par le bien. Car seule cette attitude lui permet de faire partie de ceux qui bénéficient d'une grâce immense demain devant Allah Azza wa Jal, comme l'a précisé le verset qu'on vient de lire maintenant. Tel est le comportement de toute croyante sincère vivant au sein d'une société musulmane dont les qualités distinctives sont la fraternité, l'affection et la tolérance. Cette société se distingue surtout par le pardon manifesté de la manière la plus convenable et la plus amicale. Naam, un pardon qui lave les cœurs. Naam, un pardon qui lave les cœurs de tous les résidus de la rancune. Plutôt un beau pardon, comme le décrit le Coran par une locution gracieuse et précise. Allah Ta'ala a dit: pardonne donc d'un beau pardon. 15:85. Vous avez remarqué ce qu'a dit Allah Azza wa Jal? Pardonne. Comment je pardonne? Pardonne d'un beau pardon. Ce n'est pas seulement tu pardonnes, mais il faut que ton pardon soit beau. On peut pardonner à une personne je sais pas comment on dit ça. C'est-à-dire ne lui parler que... Ça n'est pas sincèrement, si je puis dire. Non. D'accord, je t'ai pardonné, mais il commence quoi? Yani, à l'éviter, à ceci, à cela, ne lui parler que, yani, tout juste, dit un mot et comme ça. Naam. Mais Allah Ta'ala dit pardonne d'un beau pardon. Le pardon que tu dois pardonner, s'il est pour Allah Azza wa Jal, il doit être beau. à travers ses propos et ses actes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam traduisait fidèlement cette valeur morale noble qui est l'indulgence. On rapporte à ce sujet que Aïcha Lagri a dit: le messager d'Allah n'a jamais frappé quelqu'un ou quelque chose de sa main, ni une femme, ni un serviteur, sauf quand il combattait pour la cause d'Allah Azzawajal. Le messager d'Allah ne s'est jamais vengé pour sa personne de quelqu'un lui ayant porté atteinte. Il ne se faisait justice que lorsqu'on transgressait ce que Allah Azzawajal a consacré. Alors, c'est pour Allah qu'il exerçait sa vengeance, rapporté par Muslim. Muslim et Bukhari, rahimahumullah, rapportent que Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: une fois je marchais en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entour Najranit. Najranit, c'est-à-dire de Najran. Najran, c'est une région située entre le Hijaz et le Yémen. Donc, sallallahu alayhi wa sallam portait un manteau de cette région, d'une bordure épaisse. Alors un bédouin le rattrapa en le tirant par le manteau si fortement, je constatais la trace du rebord du manteau, tellement il l'a tiré d'une façon très très forte. Et le bédouin, bien sûr, ne s'est pas suffi à cela. Il lui a dit: « Ô Muhammad, ordonne qu'on m'offre quelque chose du bien d'Allah dont tu disposes. » Vous avez remarqué qu'est-ce qu'il lui a dit? Ô Muhammad, c'est pas ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Non, ô Muhammad, comme ça. Ensuite, ordonne. Déjà, je te donne ordre d'ordonner. Ordonne qu'on m'offre quelque chose de qui? Du bien d'Allah dont tu disposes. C'est comme Astaghfirullah, s'il voulait dire que ce bien n'est pas ton bien, c'est le bien d'Allah. Alors, je ne vois pas pourquoi je n'ai pas ma part. Alors le prophète, alayhi sallam, se retourna vers lui en souriant. Puis, il ordonna qu'on lui donne quelque chose de bien. Naam. Voir, Sharh an-Nawawi, Riyad Salihin, page 344. Il rapporte aussi, naam, qu'une femme juive qui s'appelle, si je n'ai pas oublié, Zainab bint Khuzaima. Si je n'ai pas oublié, elle s'appelle Zainab bint Khuzaima. Naam. Une juive lui ayant offert, sallallahu alayhi wa sallam, un mouton rôti empoisonné. Il se mit alors à en manger avec ses compagnons. Puis il leur dit: cessez de manger, elle est empoisonnée. Naam. Cessez de manger, elle est empoisonnée. On lui ramena alors la femme qui a voulu l'empoisonner, à qui il demanda: qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Vous voyez comment le messager d'Allah, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, il demande aux gens: qu'est-ce qui t'a poussé à faire ainsi? Quand Mu'ad ibn Jabal, naam, est revenu du Sham et il a fait la prosternation, il a fait une prosternation au messager d'Allah, que lui a dit le messager d'Allah? Tu es kafir en faisant la prosternation? Il lui a dit: au Mu'ad, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ainsi? Naam. Et l'autre lui a expliqué, bien sûr. Et quand Hat ibn Abi Balta'a, celui qui a envoyé une femme et lui a envoyé un livre avec la femme, un message qu'elle avait mis dans sa tralée, vous attaquer, vous combattre, etc. Quelque chose de grave ou ce n'est pas grave? Quelque chose de très grave. Quand le messager d'Allah, bien sûr, Jibril, lui a dit ce qui s'est passé, il a envoyé Ali et un autre compagnon chez la femme, lui a enlevé, bien sûr, la chose qu'elle avait. Bien sûr, elle a nié, elle n'a dit: j'ai pas cette chose. Il ne m'a rien donné. Alors Ali ibn Abi Talib lui a dit: ou bien tu nous donnes cette chose, ou bien on va te dénuder. On va t'enlever tous tes habits. Alors on est obligé de trouver la chose. Le messager n'a jamais menti. Il a dit que tu as cette chose. Bien sûr, Jibril ne peut pas mentir. Et bien sûr, elle a eu peur. Elle l'a tiré de sa tresse, un bout de papier. Une missive. Que lui a dit le messager d'Allah à cette personne? Il lui a dit: qui t'a poussé? qu'est-ce qui t'a poussé à faire ainsi? Naam, regardez, toujours en islam, quand quelqu'un nous fait du tort, ou se comporte mal avec nous, ou fait quelque chose de grave, naam, on commence toujours par lui dire, quelle est la chose qui t'a poussé à faire ainsi? Quelle est la chose qui t'a poussé à voir, à faire ainsi? On essaye, naam, de voir quelle est la chose. Peut-être que c'est quelque chose qui nous dépasse, naam, qu'on n'a pas pu comprendre. Et peut-être que, en entendant la personne dire ce qui l'a poussé à faire cette chose, on devient convaincu. On dit, subhanallah, si je ne lui avais pas posé cette question, j'aurais cru que c'était ainsi. Mais maintenant que j'ai entendu de lui, naam, je comprends alors les choses. Je comprends. Naam. Et beaucoup de gens qui appliquent cette chose, qui demandent à la personne pourquoi tu as fait cette chose, naam, éloigne d'eux, bien sûr, beaucoup, beaucoup de problèmes. Naam. Beaucoup de problèmes. Tayyib. Alors il a dit à la femme qui a voulu l'empoisonner et qui en plus de cela est une juive. Ce n'est pas n'importe qui, c'est une juive. Imaginez moi j'apprends que mon voisin le juif vient de m'envoyer une côtelette empoisonnée. J'ai commencé à la manger, maintenant j'ai mal, etc. à l'hôpital. Bien, après, alhamdoulilah, je suis khlas, je suis guéri. Que vais-je faire à ce juif? Mais que va faire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il commence par lui poser la question. Qu'est-ce qui t'a poussé à me faire cette chose? Elle répondit. Je voulais savoir si tu étais vraiment prophète. Car si tu es vraiment prophète, Allah ta'ala va te mettre en garde. En garde. Et cela ne va te faire aucun mal. Allah ta'ala va te mettre en garde. Et bien sûr, donc le fait que je t'empoisonne, cela ne te fera jamais de mal. Sinon, si tu n'es pas un prophète, alors nous nous serions débarrassés de toi. Tu nous fais trop de problèmes. Par la suite, les compagnons dirent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voudrais-tu que nous la tuions? Non, répondit-il, non. Puis il lui pardonna. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Puis il lui pardonna. Le messager d'Allah pardonna à une juive, écoutez bien, à une juive, qui, de surplus, a voulu l'empoisonner. Où sont les takfiriyoun qui disent que tout chrétien, tout juif doit mourir, tout kafir doit mourir, même s'il ne fait pas la guerre. Où êtes-vous les takfiriyoun? Où êtes-vous? Naam. Quand la tribu, écoutez ce qui va venir. Quand la tribu Daous, il y avait une tribu qui s'appelait Daous, très connue, entra en rébellion contre qui? Contre l'islam. Et refusa d'obéir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi, qu'Allah azza wa jalla agré, vint voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, les Daous se sont rebellés et refusent l'islam. Invoque Allah contre eux. Invoque Allah contre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit alors face à la Qibla et leva les mains vers le ciel. Naam. À ce moment-là, les gens dirent, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils dirent, les Daous vont périr. Car le messager d'Allah va faire des doigts contre eux. Si un messager d'Allah fait des doigts contre quelqu'un, c'est grave pour lui, bien sûr. Alors le messager d'Allah, naam, se mit face à la Qibla, leva les mains vers le ciel, naam, et dit, commence à invoquer Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à invoquer Allah Azza wa Jal en faveur des Daous. Il a dit à trois reprises, ô Allah, dirige les Daous dans le droit chemin et ramène-les à l'islam. Ô Allah, dirige les Daous vers le droit chemin et ramène-les à l'islam. Ô Allah, dirige les Daous dans le droit chemin et ramène-les à l'islam. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Alors ce hadith, c'est aussi pour ceux et celles qui disent que c'est interdit de faire des doigts pour des kofars. C'est interdit de faire des doigts pour des kofars. Alors apprends que le messager d'Allah a fait des doigts pour les kofars. Il a dit, oh Allah, oh Allah, dirige. C'est interdit de faire des doigts dans le genre, oh Allah, sois miséricordieux avec les kofars. Oh Allah, fais rentrer les kofars au paradis. Naam, oh Allah, ceci, cela. Mais quand tu demandes à Allah Ta'ala de guider ton père qui est kafir, de guider ta mère qui est kafir, tu demandes à Allah de lui donner le bien qu'il t'a donné, ce grand bien qui est l'islam. Quand tu m'as donné ce grand bien, donne-le à mon père et à ma mère, tu es dans la sunna, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Ça me rappelle aussi qu'une fois, une personne a été invitée chez le messager d'Allah dans la mosquée. Et que il y avait trois personnes, il y avait sept personnes et le messager d'Allah une troisième personne. Et il y avait une sorte de gourde, une sorte de gourde où il y avait, elles étaient remplies comme ça de lait, mashallah. Et que cette personne, quand le messager d'Allah la nuit était absent, cette personne s'est levée, elle a bu sa gourde de lait. Ensuite, elle a eu toujours faim, elle a bu la deuxième gourde. Restait la gourde du messager d'Allah pleine de lait. Elle a toujours faim, elle ne s'est pas contenue et elle a dit je bois après on verra. Elle a bu la troisième gourde. Et bien sûr, quand elle a bu la troisième gourde, elle est allée se coucher et elle a commencé à avoir les remords. Elle a dit que va-t-il se passer? Dans quelques instants, le messager d'Allah viendra boire sa gourde, il va la trouver vide. Et vous savez, boire le lait à cette époque-là, ce n'est pas comme chez nous. Yani, on mange, après, si on boit du lait, c'est comme si c'était, yani, on mange du yaourt, ou là, c'est quelque chose en plus. Non, boire le lait, c'est le principal plat, il n'y a pas autre chose. Le messager d'Allah est arrivé la nuit, et la personne a dit, j'ai fait semblant de m'endormir, et je regardais ce qui se passait. Le messager d'Allah est arrivé, il est allé à la première gourde, il a trouvé vide. La deuxième vide, il a dit, il a pris la troisième, et il l'a trouvé vide. Ici, a dit cette personne, il a dit, là, j'ai vraiment regretté, et je me suis dit, maintenant le messager d'Allah va faire une doua contre moi, une doua contre la personne qui a bu cela. Il a dit, en effet, le messager d'Allah, alayhi salam, a levé ses mains. Je ne me rappelle pas très bien s'il a dit, il a levé ses mains. Mais il a dit, a fait la doua suivante. Qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah? Oh Allah, oh Allah, donne à manger à celui qui nous a donné à manger et donne à boire à celui qui nous a donné à boire. Allahumma at'imna at'amana wasqi man saqana. Il a dit, alors je me suis levé et je suis allé au messager d'Allah. Je lui ai dit, c'est moi qui ai bu, pardonne-moi, etc. Il a dit, cette personne a dit, bien sûr, ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Vous le trouvez dans Sahih Muslim. Cette personne a dit, subhanallah al-azim, je n'ai jamais été autant contente que cette nuit-là. J'ai bu toute la gourde du messager d'Allah et il a fait des doua contre moi. Il a fait des doua pour moi. Oh Allah Ta'ala, donne à manger à la personne qui nous a donné à manger et donne à boire à la personne. Al-Muhim. Où est-ce qu'on était? Le messager d'Allah, alayhi salatu salam, encourageait sans cesse les musulmans et les musulmanes à être indulgents, même quand on leur répond par une offense ou bien une indifférence qui exprime une rupture de lien. De par la clairvoyance qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordée, il savait que les gens réagissent positivement et oublient leur rancune quand on les traite avec bienveillance et indulgence. Et nullement avec agressivité et réprimande. Naam. Je m'arrête ici. Naam. Je m'arrête ici. On se rencontre, inshallah ta'ala, dans 5 minutes. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Mettez le Coran, inshallah. Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah, je n'avais pas de micro, mais au moins je me suis entendu, alhamdulillah, j'entendais que je disais des choses. Alhamdulillah, même si vous ne m'avez pas entendu, qaddar Allah ma sha fa'al. De toute façon, je n'ai rien dit, sauf que si vous m'entendiez. Al-Muhim, maintenant, inshallah, vous m'entendez? Maintenant, inshallah, ta'ala, vous m'entendez? Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. La fois passée, certaines personnes, je ne me rappelle plus exactement c'est qui, ont parlé du fait que la sœur n'avait pas le droit de rester sans le djilbab dans la maison s'il y a les étrangers. Non. Et j'avais dit auparavant que cela se faisait si elle mettait quelque chose de large et cachait ses cheveux, et qu'avec cette tenue, j'ai dit comme ça, à condition qu'avec cette tenue, elle peut sortir dans la rue. C'est-à-dire que si c'est une tenue qui lui permet de sortir dans la rue, alors il n'y a pas de différence, puisque c'est permis dans la rue, pourquoi pas dans la maison. Al-Muhim. Mais certaines personnes, non seulement n'ont pas accepté cela, mais m'ont fait croire que, yani, je ne sais pas, mais je ne crois pas que ce soit elle qui a dit cela. Peut-être qu'elle a rapporté, Naam. Voilà, elle a posé sa question, c'est tout. Mais elle a rapporté. Al-Muhim. J'ai cru comprendre que ces personnes voulaient dire que il n'y a aucun alim qui a dit cette chose. C'est-à-dire que j'ai cru comprendre aussi que je parlais sans dalil ou bien que j'ai inventé cette chose de ma tête. Al-Muhim, mais puisque la fois passée, j'avais promis que j'allais répondre. Naam. Et que si je n'ai pas répondu la fois passée, parce que je ne me sentais pas bien. J'ai dit, je laisse la réponse à une autre fois, car j'étais peiné par autre chose. Al-Muhim. Avant cela, je voudrais faire une petite remarque pour dire que il y a des méthodes en islam, hein, quand on veut, yani, disons, reprocher une chose à quelqu'un. Hein, il y a des méthodes et allez, quand on veut reprocher. Et il y a des méthodes aussi quand on veut corriger à quelqu'un. Regardez-moi, quand j'ai lu une fois, tandis que moi qui s'appelle en français, Khaled Al-Brahim, la parure de l'étudiant en sciences religieuses. Khidiyatu Talib al-Ilm. C'est un livre qu'a écrit Bakr, le cheikh Bakr, Abu Zayd, Rahimahullah. Naam. Et ce livre a été expliqué par Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou. Naam. Ce livre a été expliqué dans des cassettes, je crois 7 cassettes, si je n'ai pas oublié, 7 ou 13, par le cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou. Et c'est plein d'intérêts, bien sûr, et d'avantages. Je me souviens que Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou, a dit, entre autres, dans ce livre, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, ça rentre dans le mauvais comportement de dire à son professeur, par exemple, quand il a dit une chose, de lui dire, Yachir, vous avez dit dans le cours précédé telle et telle. Cette phrase, il a dit, ça rentre dans le mauvais comportement. Subhanallah. Pourquoi? Il est possible que le shir ait dit quelque chose. Non. Il dit que ceci est haram, ceci est halal. Mais le shir a dit, ça rentre dans le mauvais comportement de dire comme ça. Au lieu de dire au shir, vous avez dit telle chose et telle chose, je voudrais avoir de plus ample information, il a dit, on ne lui dit pas vous avez dit, on lui a dit, on a dit cher, on a dit la fois passée que il était permis par exemple de manger la viande de cheval. Est-ce qu'on peut savoir, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un délit clair en ce sens? Comme ça, cher Laïchmo a dit, on ne dit pas au cher vous avez dit, mais on dit on a dit. Vous savez pourquoi? Quand on dit vous avez dit, c'est presque une sorte d'accusation. Yachir, vous avez dit, vous, on vous a entendu, vous avez dit. Là, c'est pas vous, si nous tous on a dit. Parce que nous, on est vos élèves, on participe avec vous. On est ici la relation, mashallah, fraternelle, paternelle, de pro. S'il y a une faute, c'est nous tous qui l'endossons. On a dit. Voilà, Cheikh Lahmou a dit, c'est comme ça le vrai comportement avec quelqu'un qui nous apprend la science. On ne lui a pas dit, vous avez dit. Subhanallah al-Azim. Naam, il y a des choses vraiment qu'on ne connaît pas. Al-Muhim, al-Muhim. Celles qui ont dit, la fois passée, quand quelqu'un est un peu énervé, il ne suit pas exactement ce qu'ils ont dit. C'est pour ça qu'ils ont dit quelque chose à la fin qui avait rapport avec l'Albani al-Rahmou. Mais je ne me rappelle pas. Le visage qui n'est pas caché, je ne me rappelle pas très bien ce qu'elles ont dit. Mais de toute façon, ce qu'elles ont dit m'a fait croire que, naam, c'est comme si elles avaient dit, vous êtes en train de parler sans délit, vous venez de dire une chose que personne n'a dite. Tous les ulamas n'ont pas dit cela. Alors moi, je me suis dit que sûrement, que celles-là ont dû lire tous les livres de tous les savants. C'est pour ça qu'elles affirment maintenant que personne n'a dit que cette chose se faisait. Alors je vais commencer d'abord pour vous donner les délits. Ensuite, je continuerai en vous apprenant, inshallah ta'ala, d'autres choses, bi'idna azza wa jalla, qui, inshallah ta'ala, vous seront utiles à vous et à moi et à tout le monde, inshallah ta'ala, sur vous en Europe, inshallah ta'ala. Niqab. Naam. Tayyib. Écoutez la question. Naam. Écoutez la question qui a été posée à Cheikh Ben Othaymin, la yahmou. Écoutez la question qui a été posée à Cheikh Ben Othaymin, la yahmou. Vous pouvez lire ça dans son site. Vous rentrez dans le site, vous écrivez Google, site de Cheikh Ben Othaymin. Ensuite, dans le site de Cheikh Ben Othaymin, vous rentrez dans Nour al-Darb. Nour al-Darb, c'est des questions-réponses qu'il faisait comme ça, directement, je crois, à la radio. Naam. Comme Cheikh Ben Baz, la yahmou, aussi, faisait cela. Regardez la question qu'on a posée à Cheikh Ben Othaymin, la yahmou. Al-Su'al, min ihda ad-dawl al-arabiyya taqul. Su'al, il a dit, question d'un des pays arabes, celle qui pose la question dit, Fadil al-Sheikh, ô noble Sheikh, ida labist al-aba'ata akunu shadda. Elle a dit, ô noble Sheikh, si je mets l'aba'a, l'aba'a, c'est quelque chose qui se met sur la tête, c'est ce qu'on appelle le jilbab chez eux. En Arabie Saoudite, dans les pays arabes, quand on dit l'aba'a, ça se met sur la tête, c'est comme le jilbab. Elle a dit, si je mets cette chose, je deviens yani shadda. Shadda, ça veut dire, je me sens la seule, comme ça, dans la rue. Je me sens, yani, il n'y a pas d'autre qui me ressemble. En mettant le jilbab. Naam, elle a dit, وَكَذَلِكَ عِنْدَمَا أَضَعَ الْغِطَاءَ السَّاتِرَ عَلَى وَجْهِهِ. Cache mon visage. Je cache mon visage avec un voile qui descend de ma tête, naam, et descend vers mon menton. Elle a dit, je me sens shadda. Je me sens, yani, vraiment étrange. Pour les gens, je suis étrange aussi. Naam. Wa asma'u kalaman wastihza'an yu'limuni. Quand je sors dans la rue, en mettant ces choses-là, j'entends des paroles qui me blessent et me font mal. Yu'limuni jiddan, ça me fait vraiment très mal. Fa hal yasih an adha'a al-aba'ata 'ala al-katif wa laysa kama adha'a 'ala al-ra's. Est-ce que Cheikh, alors, est-ce que c'est possible que je mette mon jilbab sur mes épaules et non pas sur ma tête? Je mette quelque chose sur mes épaules qui commence par les épaules et non pas par la tête. Naam, wa hal yasih lubs an-niqab wal halatu madha? Naam, je peux mettre le niqab, c'est-à-dire je montre mes yeux plutôt que de cacher tout le visage. Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait de mettre quelque chose sur les épaules et qui commence pas par la tête. Naam. Et celle-là, bien sûr, elle dit, est-ce que je peux mettre cette chose dans la rue? Ce n'est pas dans la maison, avec son beau-frère. Non, dans la rue. Naam. Écoutez ce que dit Cheikh Lahmou. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ashabihi wa mtabihum bi ihsan ya yawmiddin. La shakka anna lubs al-iba'a ala al-ra's astar wa ab'ad min fitna. Wa idha kana hakada fal afdal an taf'al al-mar'atu dalik. Cheikh Lahmou bin Outaymin a dit, la shirk, sans doute que le fait de mettre l'aba'a ou bien le djilbab sur la tête, c'est mieux, ça couvre mieux et ça éloigne de la fitna. Et si c'est comme ça, sur la tête, pas sur les épaules. Wa kawnuha talbas 'aba'atan 'ala al-katif ma'a sitri baqiyat al-badan la ba's bih. Et si cette femme va mettre cette chose-là, c'est-à-dire le djilbab ou bien en se couvrant tout le corps, la ba's bih. Il a dit la ba's bih. Ça se fait. Naam, ce n'est pas interdit. La ba's bih. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen a montré que le mieux, c'était de le mettre sur la tête. Mais si c'était sur les épaules, il a dit, c'est pas interdit. La ba'sa bihi. Naam. Lakin baqa'uha ala ma kanat 'alayhi min qabl afdal. Il a dit, mais si elle le met sur la tête, c'est mieux. Car il veut montrer que sur la tête, c'est mieux et que sur les épaules, c'est permis. Il a dit, illa sur la tête, sauf إلا أن يكون المجتمع الذي هي فيه تلبس النساء العباءات على الكتف فلا بأس. Il a dit, sauf si elle vit dans une société, sur les épaules, pas sur la tête. Il a dit, dans ce cas, alors qu'elle le mette sur les épaules et pas sur la tête. Non, il a dit maintenant, il y a certains pays comme certaines petites villes en Algérie, etc., où les femmes ont l'habitude de mettre des choses qui commencent par les épaules, pas par la tête. Ensuite, elle mettait bien pour elle de le mettre sur les épaules, c'est tout. Surtout pour ne pas se différencier des autres. Ça, c'est ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yahmou. Écoutez maintenant ce que dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, on lui a posé une question qui a rapport avec la cape. Écoutez la question, écoutez la réponse. Bon, puisque il va parler en arabe et que le son est très mauvais, je vais inshallah ta'ala vous expliquer simultanément ce qu'il dit bi'idhni azza wa jalla. J'attends que le fichier s'ouvre inshallah ta'ala. Je vous lis la question car lui bien sûr il y a quelqu'un qui va lire cette question. Regardez ce que dit la question. C'est un peu, vous n'allez pas comprendre, je vais vous lire la question. Il a dit ici, parce qu'elle est écrite, il a dit Su'al. Yaqul, le questionneur a dit لقد ظهر بين النساء لبس ما يسمى بالكب الذي يكون مقام العبادة. On dit à Cheikh Fawzan Lahmo, maintenant, on voit de nos jours que les femmes mettent quelque chose qui s'appelle une cape, à la place du djilbab. ومن صفته أنه كالثوب تماما له أكمام ومفصل على الجسم حتى الرقبة. أما الرأس فإنه يغطى بالخمار. On lui a dit, certaines femmes mettent des capes. Et ces capes, elles sont comme yani le vêtement. Et elle a dit, il a des manches, cette cape a des manches, et elle est sur mesure avec le corps. Elle est sur le corps, elle commence du bas jusqu'au cou. Quant à la tête, elle est recouverte par un voile, khimar. فما حكم لبس مثل هذه العباءات؟ Est-ce que c'est permis de mettre des choses pareilles? C'est-à-dire, est-ce que c'est permis à la femme qu'elle mette quelque chose qui commence par les épaules et qui descend, pas sur la tête? Et ensuite, elle va mettre sur la tête un khimar. Voilà. Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Écoutez, Cheikh Fawzan, la yahmou. Ça c'est la question. Maintenant il va répondre, Cheikh. Ça c'est la question.
الذي يكون مقام العباية، ومن صفاته أنه كالثوب تماما، له أكمام ومخق من الجسم حتى الرقبة، أما الرأس فإنه يغطى بالخمار، فما حكم لبس مثل هذه العباية؟
Voilà, il a posé la question. Voici maintenant la réponse du Cheikh Hafidhahullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il a dit, l'essentiel, c'est qu'elle soit couverte. Qu'elle met sur son corps doit la couvrir. C'est-à-dire qu'il ne soit pas transparent. Il a dit qu'il doit couvrir la aura. Et il doit être large et pas collé. Il doit pas être serré à son corps, mais large. Il ne doit pas être serré au point de montrer les formes moulantes. Il ne doit pas être moulant pour montrer les formes de la femme. Et il doit la couvrir de façon à ce qu'on voit rien de son corps. Il n'y a aucune partie de son corps qui n'est visible. On ne voit que l'habit. Il n'y a aucune partie du corps qui ne doit être visible.
سواء سميته كعبا او عباءة او ملاءة او رداء او جلبابا او تلال او ما اشبه ذلك، سميه بما تشاء.
Il a dit, rahimahullah, s'il a rempli les conditions qu'on a citées, c'est-à-dire large, pas moulant, hein, pas transparent, et qui couvre tout le corps, il a dit, il est permis. Soit que tu l'appelles jilbab, soit que tu l'appelles hijab, soit que tu l'appelles cap, soit que tu l'appelles abaya, appelle-le comme tu veux l'appeler. Il a dit, ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'il est permis l'essentiel, il a couvert tout son corps et on ne voit rien d'elle. Naam. Écoutez maintenant la fatwa de Cheikh Ben Baz, rahimahullah, quand on lui a posé la question suivante. Écoutez la question, qu'est-ce qu'on lui a dit? هل للمرأة أن تخرج بثياب عادية تستر جسمها دون جلباب أسود طويل؟ Est-ce qu'il est permis à la femme de sortir avec des vêtements adia, normal, des vêtements normaux, sans mettre le djilbab noir et long, sans mettre le djilbab noir et connu, qui est long. Naam. Cette fatwa de Cheikh Ben Baz, vous écrivez sur Google, vous écrivez site de Cheikh Ben Baz, et à l'intérieur de site Cheikh Ben Baz, vous allez Nour Ad-Darb. Nour Ad-Darb, une question qu'on lui a posée, il a répondu comme ça en direct. Donc, question, est-ce qu'il est permis à la femme de sortir avec des vêtements qui couvrent tout son corps, mais d'un djilbab, sans le djilbab, qui est noir et qui est long? Réponse, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa man ihtada bi hada. Amma ba'd, fa la haraj ala al-mar'a, il n'y a aucun mal pour la femme, أن تخرج في ملابس ساترة ليس فيها فتنة. Qu'elle sorte avec des vêtements qui la couvrent, نعم, et que les vêtements ne soient pas une fitna. وإن كان ليس فوقها جلباب, même si elle n'a pas mis le djilbab. L'essentiel, il a dit, elle est sortie avec des vêtements longs, bien sûr, et larges, et qui l'ont couvert du haut jusqu'en bas. لكن وجود الجلباب والعباء أكمل. Mais celle qui met le djilbab, ou bien la abaa, qui commence par la tête, il a dit ça c'est mieux. Parce que les autres habits, qui ne sont pas le jilbab, peuvent montrer certaines choses ou la certaine forme de son corps. Naam. Il a dit, donc si les vêtements sont larges et couvrants, et satira les ras ou le wajh, et elle se cache la tête et se cache le visage, ou le badan et se cache. Mais avec le jilbab, c'est mieux. Naam. Ensuite, il a dit, فوجود الجلباب يكون أكمل وأبعد للفتنة. Celle qui a mis le jilbab, c'est mieux et elle éloigne la fitna. نعم. وهكذا العباءة. Et la même chose pour العباءة. نعم. Il a dit, فالمقصود l'essentiel أن يكون أن وجود العباءة والجلباب يكون أستر. Que vous sachiez que le jilbab et العباءة ça couvre mieux et ça éloigne la fitna. S'il y a des vêtements satira qui couvre, ou elle a couvert sa tête avec quelque chose, et elle a couvert tout son corps avec quelque chose aussi, car l'essentiel c'est de couvrir, il a dit, et l'essentiel c'est quoi? C'est qu'elle doit se couvrir et de s'éloigner des fitnas tant qu'elle peut. فوق الثياب يكون أكمل. Il a dit, et quand elle met le djilbab sur ses vêtements, c'est le mieux. Naam. Mais couverte du haut jusqu'en bas avec des choses qui sont larges et qui n'ont pas de couleur et qui sont pas minces et qui ne moulent pas le corps, il a dit, c'est permis. Donc vous avez entendu les fatwas des grands ulama, naam, sur la femme dans la rue, pas dans la maison. Elle dit dans la rue. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire dans la maison. والله سبحانه وتعالى علم je demande Allah سبحانه وتعالى qui nous apprenne. المهم, ce que je veux dire ici, ce n'est pas surtout ça, ce n'est pas surtout cela, mais c'est que on ne doit pas se hâter comme ça de porter un jugement très vite et de dire personne n'a dit cette chose, les oulamas n'ont pas dit cette chose, et comme si on voulait dire vous invitiez des choses, vous inventez des choses votre tête. Naam. On ne doit pas se hâter de dire comme ça. Deuxièmement, vous qui êtes en Europe surtout, hein, je vous donne le conseil d'aller doucement avec les gens quand vous faites la da'wa. Si toi, ma soeur, Allah Azza wa Jalla t'a aidé, t'as ouvert ton cœur et ta poitrine, tu as mis le jilbab, sache que ce n'est pas une chose facile pour tout le monde. Naam. Sache que, naam, entrer dans l'islam à cause du djilbab. Ils ont peur du djilbab. Naam, du djilbab et des gants et du niqab sur le visage. C'est pour ça que, quand vous faites la da'wa, allez-y doucement. Jacqueline veut se reconvertir maintenant. Et elle t'appelle, toi ma soeur, et elle te dit, voilà ma soeur, j'ai lu, je suis très intéressé par l'islam, mashallah, c'est une religion, mashallah, ceci, cela. Ensuite elle lui dit, je veux annoncer mon islam vendredi prochain, aller à la mosquée l'annoncer, même si ça se fait pas malish, mais j'ai la condition, c'est de ne pas mettre le djilbab. Je voudrais rester comme ça avec une tunique. Je vais mettre une tunique qui descend jusqu'en bas, et un foulard sur la tête, mais je ne vais pas mettre le djilbab. Attention, ma soeur, que tu fasses la faute de lui dire, alors dans ce cas, ne rentre pas en islam. Puisque tu veux pas commencer par le djilbab et les gants, et alors ne rentre plus en islam. Ne rentre pas en islam, l'islam n'a pas besoin de toi. Attention ma soeur, que tu fasses cette faute, naam, car tu regretteras demain devant Allah Azza wa Jal, quand tu le rencontreras, d'avoir faire fuir des gens de l'islam. Naam. Et pour que tu saches que si tu fais cela, que tu es vraiment dans l'erreur, et vraiment dans l'erreur, il faut que tu saches deux choses. La première, c'est que le din, l'islam, ne t'appartient pas. L'islam, ce n'est pas quelque chose que mon père m'a laissé ou là mon grand-père avant de mourir. Je fais ce que je veux de lui, mais l'islam, c'est quoi? C'est quelque chose d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui commande. c'est lui qui commande. Et nous, quand on fait la da'wa, on doit la faire d'après les principes de l'islam aussi. Et d'après les préceptes de l'islam aussi. Naam. Regardez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une tribu de Thaqif, est venue le voir et lui ont dit, on va faire le pacte d'allégeance avec toi, rentrer en islam, mais on a deux conditions. Il leur a dit c'est quoi? Ils ont dit on rentre en islam à condition on ne donne jamais l'aumône et on ne fait jamais le... Imaginez des gens qui viennent te dire je rentre en islam à condition que je ne fasse pas la zakat et que je ne fasse pas le djihad. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Le messager de Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. Ce hadith se trouve dans Sahih Abi Daoud, Cheikh Al-Albani, volume 3, page 163. C'est-à-dire que le messager d'Allah a accepté. Il a dit d'accord, rentrez en islam, sans faire la zakat et sans faire le djihad. Il a dit, mais, il a dit aux autres, mais je sais que quand ils vont rentrer en islam, ils vont faire la zakat, ils vont faire le djihad. Naam. C'est impossible que quelqu'un rentre en islam, ensuite, l'islam commence à, mashallah, rentrer dans son cœur, il commence à aimer Allah, il commence à aimer le Coran, ensuite il ne va pas faire la zakat. Il va laisser quoi? Il va laisser un pilier de l'islam ne pas le faire. Donc il est kafir. Il va dire, je suis en train de jouer moi en fin de compte. Il vaut mieux que j'applique ou bien que je sorte. Et il va commencer à appliquer. Subhanallah l'adhim. Un homme est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, il lui a dit, je rentre en islam à condition que je ne fasse que deux prières. Ya Rasulallah, combien il y a de prières? Il y a cinq. Moi je rentre en islam à condition que je ne fasse que deux prières. Tu acceptes ou j'accepte pas? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accepté ça de lui. Il est rentré en islam, il ne fait que deux prières. Je pense, Allahu alam, peut-être celle du Zohar et peut-être le Maghreb, peut-être les plus faciles. Non, il a choisi, il a dit, je fais seulement deux prières par jour. Le messager d'Allah, alayhi wa sallam, a accepté. Vous trouverez ça dans le livre de Cheikh Al-Albani al-Rahmo, Al-Samr al-Mustatab, volume 1, page 51. Subhanallah l'Azim. La prière, tu ne fais pas cinq. Tu fais deux seulement. Naam, je fais deux ou je ne rentre pas en islam. Imagine ma soeur, ta voisine Jacqueline qui veut rentrer en islam. Et tu dis, c'est beaucoup cinq prières. Je ne veux faire qu'une. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ne rentre pas en islam. Et tu dis, j'aime rentrer en islam, mais je ne peux pas, j'ai la cigarette. La cigarette, je ne peux pas. Ça fait 20 ou 30 ans que je fume. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Alors ne rentre pas en islam à cause de la cigarette. Reste kafira. Reste kafira, tu vas rentrer à Jahannam. On lui dit, rentre en islam. La cigarette, c'est haram, mais rentre en islam. Allah Azza wa Jal va t'aider, va te guider. Inch'Allah, tu vas la jeter après. Rentre en islam d'abord. Naam. C'est pour ça que beaucoup de personnes, surtout chez vous en Europe, j'ai remarqué, yani, exagèrent dans l'application de l'islam. Et ils veulent tout appliquer en une fois. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ensuite, ils rejettent tout. Comme ils ont tout appliqué en une fois, après, ils décident de rejeter tout. Une sœur très connue chez vous, subhanallah l'azim, qui était vraiment dans la perdition, et quand Allah Ta'ala l'a guidée, elle était tout le temps avec la mini-jupe et les cabarets. C'est ce qu'on a dit d'elle. Et quand Allah Ta'ala l'a guidée, bien sûr, le djilbab, le niqab, les gants, et elle a commencé la da'wa. Plusieurs sœurs, et plusieurs aussi converties, sont rentrées en islam par son biais. Bidna Azza wa Jalla, elle a été une cause. Cette sœur, Naam, si vous savez de qui je parle, Naam, maintenant a tout jeté. A jeté le djilbab, les gants, Naam, le niqab, et elle est revenue à ce qu'elle faisait, Naam, la première fois, à la perdition. Que Allah Azza wa Jalla nous aide, nous préserve et nous guide. Naam, pourquoi? Ce sont des gens qui essayent d'aller très vite, de tout appliquer à la fois, ensuite ils jettent tout. Il ne veut pas aller doucement, doucement. Tout à la fois. Naam, tout est. Naam, je fais tout, je ne fais rien. Tout à la fois. Naam. Et elle a tout jeté. Ici en Algérie. En Algérie. Naam. Un frère a ramené une sœur d'Allemagne. Naam, il s'est marié avec elle, une Allemande. Naam. Elle est là à la maison, en Algérie. Naam, subhanallah al-adhim. Son mari s'est plaint d'elle à un ami à moi. Un ami est quelqu'un de la famille. Naam. Il lui dit, subhanallah al-adhim, tout est haram. C'est interdit de manger sur une table, on doit manger par terre. C'est interdit de se coucher dans le lit, on doit se coucher par terre. C'est interdit, je ne sais pas, peut-être de faire les ablutions dans le robinet. Il faut faire dans une tasse. Et comme ça, tout est interdit. Naam. Je suis sûr que cette sœur ne terminera pas et que son trajet ne sera pas très long si elle continue comme ça. Tous ceux qui ont commencé comme ça n'ont pas terminé. Et alhamdoulilah, maintenant, cette sœur, cette Allemande, vient de faire la connaissance d'une sœur qui est de la famille, naam, qui est de la famille, qui a, mashallah, un magistère en sciences islamiques. Et cette sœur a dit que maintenant, je lui donne des nasiha. Et elle a commencé à apprendre et à comprendre que l'islam, ce n'est pas seulement yani, manger par terre, naam, et qu'il faut aller doucement, doucement. Subhanallah, son mari qui se plaint d'elle. Son mari dit c'est trop. Mes enfants sont tous perturbés. On ne peut pas manger sur une table, on ne peut pas manger avec la fourchette, on ne peut pas manger avec, j'allais dire avec les ciseaux, on ne peut pas manger avec le couteau, on ne peut pas. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, il est dans le Bukhari. Le hadith, il est dans le Bukhari. On lui a présenté une épaule de mouton. Il a pris le couteau, sallallahu alayhi wa sallam, il a pris le couteau. Je dis couteau, 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 couteau. Il a pris le couteau, il a commencé, sallallahu alayhi wa sallam, à couper. Ensuite, il a entendu l'adhan, il a dit, il a jeté le couteau par terre, il est parti faire la prière. Le couteau. Pour ceux qui disent, c'est interdit d'employer le couteau, c'est interdit d'employer la cuillère, c'est interdit d'employer la fourchette, c'est interdit d'employer la table, c'est interdit de dormir sur le lit. Pour tout cela, il faudrait comprendre que l'islam, c'est plus vaste que cela. Et qu'il faut aller doucement, doucement. Surtout vous qui faites la da'wa. Surtout vous qui faites la da'wa aux gens et aux kuffars. Aux kuffars. Attention que vous commenciez par tout leur interdire. Jacqueline, tu veux rentrer en islam? D'accord. Mais attends que je te dise. Qu'est-ce que tu vas me dire? Attends, je vais te dire. C'est interdit la cigarette, c'est interdit la musique, c'est interdit la télévision. C'est interdit de la mixité, c'est interdit. Les jous. Elle va dire, oh, alhamdoulilah que tu m'as dit, alhamdoulilah. Oh, Dieu merci, tu m'as dit ça maintenant. Ah, je préfère ne pas rentrer, c'est vraiment difficile. Oh, vraiment, tu m'as fait peur, ma soeur. Oh, je préfère rester comme ça. C'est vraiment, tu vas me faire entrer dans une prison. C'est interdit de regarder par la fenêtre. C'est interdit de, je ne sais pas, de... Tout est interdit. Naam. Elle va dire, moi je préfère rester comme ça. Assalamu alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Où est-ce que j'étais? Est-ce que vous m'entendez que quand j'ai dit que tout était interdit? Est-ce que vous avez entendu que tout est interdit? Vous m'avez entendu ou vous n'avez pas entendu ça? Alhamdulillah. Naam. Mais la vraie da'wa bidna azza wa jalla consiste à quoi? Naam. Ah, la vraie da'wa consiste à montrer aux gens cette, mashallah, la magnificence de l'islam. L'islam, c'est ceci. L'islam, c'est la beauté, c'est la fraternité. L'islam, c'est le paradis qui t'attend. L'islam, c'est les délices qui t'attendent demain. L'islam, là, mashallah, quand la personne rentre et que l'islam et la douceur et la saveur de la foi commencent à rentrer dans son cœur, cette personne, bi'idnillah ta'ala, c'est elle qui viendra te demander, est-ce que cette chose est haram, est-ce que cette chose est permise, est-ce que cette chose est halal. C'est elle qui va t'agacer avec le téléphone. Toutes les 5 minutes, elle va te téléphoner. Dis-moi ma soeur, est-ce que je peux faire ceci ou c'est haram? Dis-moi ma soeur. Naam, c'est elle maintenant qui veut chercher. Pourquoi? Parce que la douceur de la foi, mashallah, est remplie dans son cœur. Et elle a peur. Elle a peur de quoi? elle a peur de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de faire des choses qui sont interdites sans le savoir. Mais sache que si toi tu commences à tout lui interdire, tu seras la cause pour l'avoir fait fuir de l'islam. Dans Sahih al-Bukhari, la dernière chose que Allah t'a interdite, c'est l'alcool et la zina. Elle a dit, si Allah ta'ala avait interdit l'alcool et la zina au début de l'islam, les gens n'auraient pas accepté et auront dit, je ne délaisse pas la zina, je ne délaisse pas l'alcool. Naam, mais Allah ta'ala, a dit, si vous voulez yani ordonner aux gens l'islam en bloc, alors ils vont quoi? Ils vont le rejeter en bloc. Naam, tu veux pas aller avec les gens doucement, doucement, tu veux leur donner l'islam en bloc. Tu acceptes tout, tout, tu rejettes tout, alors ils vont rejeter tout. Il n'a pas la foi, la douceur de la foi qui lui permet d'accepter tout cela. Subhanallah al-Azim. Moi, je ne peux, je ne sais pas si on dit le verbe lever, hein, reprenez-moi. Je ne peux, par exemple, prendre que 50 kilos, qui sont une barre de fer. Hein, une barre de fer, j'essaye. Alhamdoulilah, j'ai pris 20, 25, 30, hein, comme vous voyez les gens qui prennent comme ça la barre de fer, soulevez, Jazakallah, soulève, j'ai soulevé 30, 35, 40, j'ai soulevé 40, 40 et demi, 41, je peux pas. Quand je prends 41 kilos, je peux pas. Alors 42, 43, c'est pas possible. Toi maintenant, directement, tu viens me demander de soulever 50 kilos. C'est pas possible, je préfère rejeter ça. Mais commence avec moi doucement, doucement. 20 kilos, 21, 22, 23, et comme ça j'arriverai à 40, 45, 50. C'est comme ça qu'on fait d'ailleurs dans le sport. On s'habitue, on ne peut pas du premier coup tout prendre. La même chose dans les cœurs. Le cœur ne peut pas tout prendre à la fois. Il faut aller doucement, doucement avec la personne. Chaque fois, on lui ajoute une chose que Allah Azza wa Jal aime. Et on lui retranche une chose que Allah Azza wa Jal déteste. Demain, je vais t'apprendre une chose que Allah Ta'ala aime. Après demain, je vais t'apprendre une chose que Allah Ta'ala déteste. Et comme ça, tu vas voir, mashallah, le chemin est très long. Peut-être tu vas vivre 40 ou 50 ans encore. Non, pourquoi pas, peut-être tu vas vivre 60 ans. Et tu as une certaine quantité de foi dans ton cœur. Il ne faut pas la brûler maintenant. Tu risques de ne pas arriver à bon port. Non, tu as par exemple 40 litres d'essence. Attention, tu vas les brûler ici dans la ville. Dans la ville, tu vas tourner dans la ville, tu vas brûler toute cette quantité. Ensuite, ça ne va pas te permettre de faire les 200 km. Toi aussi, Allah Azza wa Jalla t'a donné un serment pour arriver à bon port ou pour arriver dans la tombe à bon port. Dans la tombe. Naam, l'essentiel, c'est comment tu vas arriver dans la tombe. Naam. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est une phrase que yani, on ne peut pas oublier. Yani, moi, quand je l'ai lue, yani, je ne peux pas oublier, car Cheikh Islam a dit certaines phrases que si elles s'écrivaient avec de l'or, ça ne suffirait pas. Regarde, écoutez cette phrase qu'a dit Cheikh Islam, il a dit « Ma'ahu dhulmatun inda adami wujudin nori tam » Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous savez ce qu'il a dit, Cheikh Islam, je répète. لا ينكر نور معه ظلمة عند عدم وجود النور التام. Écoutez ce que veut dire Cheikh Islam, la yahmo. À moins que pour certains d'entre vous, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah n'a pas de science. Si vous croyez ça, ça c'est autre chose. Al-Muhim, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, la yahmo, a dit, si on a une lumière, mais avec cette lumière il y a de l'obscurité. Il a dit, c'est mieux que d'avoir la totale obscurité. Il a dit, quand on voit une lumière, et que cette lumière a aussi de l'obscurité, on ne doit pas la blâmer. Pourquoi? Car si ce n'est pas possible d'avoir une lumière totale. Maintenant, on te dit, yani, tu choisis. Ou bien c'est l'obscurité totale, ou bien c'est un peu de lumière. Qu'est-ce que tu choisis, l'obscurité totale ou un peu de lumière? tu choisis un peu de... Il faut pas la blâmer, il faut l'accepter si on peut, si on peut pas avoir la lumière totale. Imaginez que vous n'ayez plus d'électricité à la maison. Ensuite, les dépanneurs, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, il vient, il te dit, c'est impossible qu'on vous remette d'électricité. Non, sauf d'ici un mois. Tous les câbles sont brûlés, etc. On doit creuser par terre, mettre des câbles, etc. Mais choisissez, ou bien vous restez dans l'obscurité totale, ou bien on va vous mettre une petite lampe, petite, vraiment petite, non, qui te permet de voir seulement un mètre ou deux mètres devant toi. Qu'est-ce que tu choisis? Si tu choisis l'obscurité totale, c'est que vraiment, ta place, c'est à l'hôpital psychiatrique. Ta place, c'est à l'hôpital psychiatrique. Car avec la petite lampe, au moins, je peux voir où je mets les pieds. Je peux voir où se trouve la salle de bain, où se trouvent les toilettes, où est la qibla pour faire la prière. Est-ce que ça, c'est des pommes de terre ou c'est des tomates? Je peux voir avec la... J'approche comme ça la petite lampe et je peux voir. Mais si je choisis l'obscurité totale, c'est que je suis fou. La même chose, mes frères et mes sœurs. Vous êtes avec des gens, vous allez rencontrer des gens qui sont faibles de foi, qui ne peuvent pas tout accepter à la fois. Je reste comme ça dans le coffre, et la mini-jupe, et l'alcool, et les cabarets. Ou bien je vais rentrer comme vous en islam, mais je mets seulement ma tunique. Choisis ma sœur, je rentre dans votre islam, ou bien je reste dans moi. Ça dépendra de comment tu lui répondras. Est-ce que tu as assez de science? Est-ce que tu as assez de patience? Est-ce que tu as assez de sagesse? Naam. Ou bien tu vas dire, non, 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 l'islam n'a pas besoin de toi. L'islam est riche. L'islam n'a pas besoin de toi. L'islam te veut aujourd'hui, où tu vas dire, shahadu la ilaha illallah, shahadu muhammad rasulullah, te veut avec le jilbab, les gants, le sitar, pas de musique, pas de cigarette, pas de ceci, pas de cela, à partir d'aujourd'hui. Non, tout est haram. Ou bien, reste comme tu es. Si tu fais comme ça, c'est que vraiment tu fais fuir les gens de l'islam. Non. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous apprenne notre din. Parce que, yani, on est vraiment, yani, on manque vraiment, non, on manque vraiment, yani, de science et de sagesse. Que Allah azza wa jal nous apprenne. Non. On va très vite, inshallah, à vos questions. Salam à 57. Hayyakillah, tafadla li bidna azza wa jal.
Salam alaikum wa rahmatullah, cheikh. Barakallahu fikoum pour ces conseils bénéfiques sur la da'wah, car ici, on est souvent trop dur, pas de hikmah, subhanallah. C'est l'ignorance. Vous nous avez appris beaucoup, mashallah, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Amin. Une sœur demande, j'ai entendu dire que certains mashaïrs autorisaient à la femme de voyager sans mahram. Je voudrais savoir si le fait de voyager sans mahram pour visiter sa famille, oncle et tante âgée et malade, et assister au mariage de son frère peut être considéré comme une daura, nécessité. Précision, sur le voyage, prendre l'avion avec ses sœurs en sachant qu'un mahram la dépose à un aéroport de départ et qu'un autre mahram la récupère à un aéroport d'arrivée en sachant que le vol ne dure que 2 heures.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, vous m'entendez inshallah ta'ala? Naam. Avant de répondre à la question de la sœur, inshallah ta'ala, je n'oublierai pas de dire que toujours quand vous faites la da'wah, surtout aux kuffars et aux gens comme ça en général, toujours dites-vous que quoi? Que yani, si jamais je vais faire fuir quelqu'un de la da'wah, il y a un grand châtiment qui m'attend demain devant Allah Azza wa Jalla. N'oubliez pas ça. Non. Quand tu fais la da'wah, il faut que tu sois un modèle. Un modèle. Et dis-toi toujours que le din, l'islam, c'est pas ton islam. C'est l'islam d'Allah Azza wa Jalla. Naam, rentre en islam, même si elle applique mal ou elle n'applique pas bien, etc. Pourquoi? Laisse-la rentrer en islam. Pourquoi tu... Allah Ta'ala qui va châtier cette personne qui n'a pas appliqué. Ce n'est pas toi. Naam. Certaines personnes font sentir aux gens que c'est nous qui représentons l'islam. Naam. Ou bien tu rentres en islam en tout appliquant, ou bien tu ne rentres pas. Subhanallah al-Azim. Le messager d'Allah, j'ai dit que des gens lui ont dit on fait seulement deux prières au lieu de 5, il a accepté. D'autres lui ont dit on fait ni le djihad ni la zakat. Il a accepté. Al-Muhim, comme vous avez dit, Inch'Allah ta'ala, ça a besoin de dorus. Je ferai, Inch'Allah ta'ala, des dorus spécialement sur la da'wa, spécialement pour ceux et celles qui sont en Europe. Car comme j'ai dit tout à l'heure, et Inch'Allah ta'ala, vous-même, si vous êtes, Inch'Allah ta'ala, sincère, vous confirmerez, vous me direz, vous avez raison. Vous-même, vous reconnaissez que beaucoup d'entre vous rentrent en Islam, et bien sûr avec sincérité, etc., ils veulent tout appliquer, ensuite ils rejettent tout. Naam. Ensuite, ils rejettent tout. Rejettent le niqab, rejettent le djilbab, et c'est la mini-jupe et les dancing et les cabarets. Naam. Tout le monde sait cela. Naam. Pourquoi? Il veut tout appliquer en un jour. Et il veut trop serrer. Naam. Trop serrer. Il ne peut pas manger par terre, il ne peut pas dormir sur un lit, pas de fourchette, pas de cuillère, pas de ceci. Tout est interdit. Et après, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, c'est trop pour moi. Je ne peux pas. Voilà, c'est trop. C'est une prison. Cet islam, c'est une prison. Et il jette tout. Il jette tout. Subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jalla nous aide et nous guide. A force, il a zada an haddihi, in qalaba ila ziddihi. En arabe, on dit, la chose, naam, si elle dépasse les limites, elle se renverse sur elle-même. Elle se renverse, c'est-à-dire dans le sens contraire. Naam. Quelqu'un qui dépasse les limites se renverse sur lui-même. Tayyib. Maintenant, ça me rappelle une chose, Inch'Allah ta'ala. Ça me rappelle une chose. Ça me rappelle, subhanallah al-adhim, quelqu'un, ça retourne sur la personne. Naam, ça me rappelle une fois quelqu'un qui est, j'allais dire, entré en islam. Bon, c'est un musulman, mais quelqu'un qui ne faisait pas la prière, etc., qui a commencé à appliquer. Ensuite, il a mis le qamis, masha'Allah. Ensuite, il a mis quoi? Ensuite, il a mis la barbe. Ensuite, masha'Allah, les doros, ceci, cela. Mais il a commencé à un peu, beaucoup appuyer sur l'accélérateur. Naam. Une fois, un groupe est venu me dire que cette personne X, vous savez ce que c'est, la hache, naam, et qu'il marche dans la rue, et il passe devant les vitrines. Où il trouve quelque chose, c'est haram, il trouve une guitare, il trouve ceci, et une jupe ou là, il casse la vitrine avec la hache. Il casse la vitrine avec la hache. Ah. Et là, j'ai dit à ces personnes-là, voilà, je leur dis, donc cette personne, c'est trop tard pour elle, yani, ou bien, on va lui faire la nasihissa pour qu'elle revienne vers le droit chemin, ou bien, elle va quoi? Elle va tout jeter. Naam, c'est impossible de continuer ainsi, car c'est faux. Naam, cette personne, masha'Allah, je me souviens, yani quand elle a commencé yani vraiment à appliquer, au point où, des fois quand Cheikh Abdel Malik Ramazani, hafidhahullah, il venait dans ma mosquée où j'étais imam, et quand il allait répondre à des questions, je laissais cette personne dont je vous parle, je lui disais, tu lis les questions, ma Cheikh Abdel Malik, et lui, il répond. Un mohim. Cette personne, j'ai dit, a commencé à exagérer. Naam, hafidhallah, a commencé à exagérer au point où, une fois on m'a dit, un cheikh, question, Cheikh Abdel Malik. Ah bon, elle vient plus à la mosquée, naam. Ensuite, un certain temps, je ne sais pas, 10 jours, là, 15 jours, là, un mois, on m'a dit, un cheikh, elle a enlevé la barbe. Ah, là, le Moustaan. Ensuite, Yachir, cette personne marche avec le short dans la rue. Elle met le short, elle marche dans la rue. Oh, Naam. Après un temps, Yachir, cette personne, maintenant, fume de la drogue devant tout le monde. Bien sûr, c'est très grave, c'est trop grave. Et cette personne à la fin, terroriste, et ils lui ont coupé la tête, et sa tête, on l'a mise comme ça, même sur une barre de fer comme ça, et je suis passé devant sa tête, entre moi et sa tête, il y avait quelques mètres, c'est tout, quand on a déposé sa tête comme ça, dans un jardin public, sur les barreaux, vous connaissez le jardin public, il est entouré par des barreaux, certains barreaux contiennent comme ça, elles sont formées comme des petites lances, elles sont pointues. On a déposé sa tête sur un des barreaux. Subhanallah al-Azim, Allahu Akbar. Allah yirhamu miskin, Allah yirhamu cette personne qui était au premier rang avec la barbe, etc. Pourquoi je dis cela? Pour ceux qui exagèrent. Regardez comment que ça a été sa fin et regardez comment il est mort, mesquine, lui qui était dans les doros, qui disait les questions, qui ceci, cela. Donc, j'avertis ceux qui accélèrent à fond et qui veulent tout faire à la fois. Je leur dis, allez, allez, allez-y doucement, doucement, comme a dit le messager d'Allah. Il a dit que s'il y a la douceur dans une chose, c'est que toujours elle apporte le bien. Et à chaque fois que de Salama 57, je dis en effet, certains savants ont permis à la femme de voyager de voyager sans mahram. Maintenant, je ne parle pas de la hijra. Pour faire la hijra, Inch'Allah ta'ala, il est permis à la femme de voyager sans mahram. Car Zaynab, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a fait le voyage de la hijra sans mahram. Et aussi Kulthum bint Abi Mu'ayth aussi a fait la hijra sans mahram. Et aussi Umm Salama a fait la hijra avec un kafir. Et aussi Aïcha radiallahu ta'ala anha, dans ce qui s'est passé, la calomnie, etc. Elle a fait le voyage avec Safwan ibn al-Mu'attal radiallahu ta'ala anhu. Maintenant, elle dit, je ne parle pas pour la hijra. Je sais qu'elle ne parle pas pour la hijra. Maintenant, à part la hijra, la plupart des savants ont dit qu'il était interdit à la femme de quoi? De voyager sans mahram. La plupart ont dit qu'il était interdit à la femme de voyager sans mahram. D'autres ont dit, ne sont pas nombreux et n'ont pas des délits comme ça très clairs. N'ont pas des délits très clairs. Leur délit, c'est quoi? Leur délit, ils ont dit que autrefois il y avait la fitna, il y avait ceci, les gens avaient peur que la femme voyage. Ils ont dit maintenant il n'y a pas la fitna, etc. Et d'autres ont répondu que même de nos jours il y a la fitna. Parce que quand une femme monte dans l'avion par exemple et qu'elle est seule, elle n'a pas de mahram, d'abord elle ne sait pas avec qui elle va s'asseoir. Il est possible que sa place soit entre deux hommes. C'est un exemple. Je ne parle pas de Selama 57, c'est un exemple. Il est possible que sa place soit, par exemple, dès 18. Elle sera entre deux hommes, un homme à droite et un homme à gauche. Naam, c'est possible, pourquoi pas? Et bien sûr, c'est la fitna, car les gens et les hommes savent qu'il n'y a pas un homme avec elle. Naam, celui-là, il va lui faire des yeux doux, celui-là, il va lui dire des choses, celui-là, ceci, cela. Naam, et beaucoup de sœurs et beaucoup de femmes sont sincères, ils ne voulaient pas cette chose, mais le shaitan est rentré et elles sont tombées dans la fitna. Moi, Inch'Allah ta'ala, je suis de l'avis que la femme ne voyage pas sans mahram, sauf si c'est une darura, sauf si c'est un besoin et une nécessité pour aller se soigner, pour quelque chose de grave. Et à Salama 57, il lui dire que yani, tu peux voyager. Mais je préfère, Inch'Allah ta'ala, qu'elle pose sa fatwa à un savant, Inch'Allah ta'ala, qui lui réponde. Car comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit que même dans l'avion, il arrive qu'il y ait des détournements. Elle veut partir de Paris vers Alger et l'avion est détourné. Elle se trouve au Zimbabwe. Elle se trouve au Soudan. Je ne sais pas où elle se trouve. Dans une forêt même. Aujourd'hui, Salama 57, c'est mon dernier cours d'aujourd'hui. Moi, je voudrais poser la question, comment tu le savais? Qui le savant? Comment as-tu su que c'est le dernier cours aujourd'hui? J'attends, Inch'Allah ta'ala, ta réponse. Salama 57. Est-ce que tu as fait un songe? Tu as fait un songe? Comment as-tu su que c'est le dernier cours? Ah, vous avez dit qu'il restait deux ou trois cours. Inch'Allah ta'ala, j'en parlerai tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Umayya, tafadhali.
Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous nous enseignez. J'aimerais savoir s'il est permis à la femme, lors des ablutions, de passer l'eau sur le voile à la place sur la tête directement.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est permis à la femme de faire cette chose à condition. Quelle condition? À condition qu'elle se trouve dans une nécessité. Par exemple, il fait froid. Par exemple, elle a mis le henné sur sa tête. Par exemple, yani, elle se trouve dans une nécessité. Qu'est-ce qu'elle fait? Par exemple, dans les WC, une femme. Non. Par exemple, quand elle a peur d'être vue par les hommes. Non. Elle n'a pas comment faire. Ou bien ne pas faire des ablutions, ou bien faire sur le voile. Non. À condition que ce n'est pas elle met de l'eau, mais elle met de l'eau dans ses mains. Ensuite, elle jette comme ça l'eau de ses mains. Non. Ensuite, elle fait passer ses mains seulement sur le khimar. Non. Ça se fait pour l'homme et ça se fait pour la femme. Ça se fait pour l'homme, ça se fait pour la femme dans les situations où il y a, disons, une nécessité. Non. Tfadl, inshallah ta'ala, le suivant.
Abdallah 06, c'est à votre tour, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Suite à la panne de ma voiture et en attendant de la réparer, un frère m'a donné une voiture. La question est, m'est-il permis d'aller à la mosquée sachant que je ne l'ai pas assuré ni changé la carte grise et que c'est obligatoire en France? J'encours des amendes et la saisie du véhicule et sinon, puis-je faire salat chez moi car le masjid est à 5 km?
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatouh. Naam, tu n'as pas le droit de marcher, de rouler avec cette voiture. Car tu vas te faire du mal à toi et à lui. À lui pour te l'avoir prêté et à toi en risquant une amende ou la prison, je ne sais pas quoi. C'est pour ça que si la mosquée est à 5 km de chez toi, tu fais la prière à la maison, inshallah ta'ala. Naam. Tfadl inshallah le suivant.
Donc j'ai la question de Amatul Haq, elle me l'a envoyé en PV. Salam alaikum. Lorsqu'on effectue son hajj, tous nos péchés sont effacés. Si l'on effectue une deuxième fois ou troisième fois, etc., à suite, est-ce que nous avons les mêmes mérites? Barakallahu fikum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que tous les péchés sont effacés, il faudrait comprendre que ce sont les péchés, inshallah ta'ala, qui ont rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Car les péchés qui ont rapport avec les personnes, naam, ça ne s'efface que si la personne te quoi? Que si la personne te pardonne. Imaginez que quelqu'un tue mon père, ma mère, ma femme et mes enfants. Et me brûle ma voiture et me vole tout mon argent. Ensuite, il va aller au Hajj. Et, alhamdoulilah, il va dire aux gens, alhamdoulilah, j'ai été au Hajj, Allah m'a pardonné, alhamdoulilah. C'est logique, si quoi? Si c'était des choses qu'il avait faites en ce qui ont rapport avec Allah. Mais ce sont des choses qui ont rapport aussi avec moi. C'est moi, il m'a tué, ma famille, il m'a brûlé ma voiture et comme ça. C'est pour ça que les savants disent que, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que on ne gagne rien quand ceux qui nous font du mal font le repentir. Mais on gagne quand les gens qui nous ont fait du mal, yani, nous rendent, par exemple, nous rendent nos droits. Moi, quand cette personne est allée au Hajj, qu'est-ce que j'ai gagné? Il m'a brûlé ma voiture, il m'a tout fait, il est parti au Hajj. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai rien gagné. Je gagne moi quand il me rend de l'argent, il me donne de l'argent pour réparer ma voiture. Et quand, naam, je demande la sentence, etc. C'est pas quand il se repent. En ce qui concerne le Hajj, deuxièmement, le Hajj le plus important, c'est quoi? C'est le premier. Le premier qui est obligatoire. Ensuite, tous les autres Hajj qui ne sont pas obligatoires, naam, ont aussi le grand mérite, naam, de se faire pardonner les péchés. Le Hajj, du Hajj au Hajj est comme ça. De la Umrah à la Umrah est comme ça. Naam. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Tfadl, inshallah, le prochain.
Saif Allah, c'est à votre tour, Inch'Allah. Leur aide vous a été retirée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est la suivante. De nos jours, beaucoup de sœurs portent le niqab en montrant leurs yeux. Est-ce que c'est toléré? Car j'ai lu une fatwa où un shir, Allahu alam, je ne sais plus qui c'est, nous a interdit de montrer les yeux, mais de couvrir totalement le visage. Barakallahu fikoum, de m'éclaircir un peu à ce sujet. Le shir, c'est shir Fawzen. Qu'Allah le préserve.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Si d'après l'avis qui dit que ce n'est pas obligatoire de se cacher le visage, donc ce ne serait pas aussi interdit de montrer les yeux. Mais j'ai lu que Cheikh Ibn Outaymin, rahimahou, et certains savants de l'Arabie Saoudite disent que celle qui montre seulement les yeux, c'est une fitna. Naam. Car si la femme montrait carrément son visage, ce serait moins fitna qu'une femme qui montre seulement les yeux. Mais le fait qu'une femme montre ses yeux, c'est connu chez les salafs. C'est connu chez Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, dans le verset qui dit « Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha ». Ma dhahara minha, il a dit, c'est-à-dire le kohl, c'est-à-dire les yeux où on met le noir. Et il a dit le khatam, c'est-à-dire les mains où on met la bague. Où on met la bague. Naam. C'est pour ça que si une femme montrait seulement les yeux, alors je lui conseille qu'elle descende. Elle descende son voile qui est sur sa tête jusqu'à ce qu'il arrive au sourcil. Naam. Et qu'elle fasse monter son niqab qu'elle met sur son nez, qu'elle le fasse monter jusqu'à ce que on ne voit que ses cils. On ne voit que ses cils. Naam. C'est comme ça que je lui conseille, Inch'Allah ta'ala. Naam. Tfadla, Inch'Allah ta'ala, le suivant.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجلس إن شاء الله. الحمد لله. نعم جري لك سؤال إن شاء الله جي فخير. السلام عليكم ورحمة الله. Quelle est la meilleure façon de jeûner le mois de Shahban pour quelqu'un qui jeûne toujours le lundi et le jeudi ainsi que les autres jeûnes surérogatoires de l'année? Barakallahu fik, qu'Allah vous récompense. Tfadal Cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. La meilleure façon de jeûner Sha'ban, c'est de jeûner les 15 premiers jours. C'est de jeûner pendant les 15 premiers jours et de ne pas jeûner dans les 15 derniers jours. Sauf pour une personne qui a l'habitude de jeûner les lundis et les jeudis. Cette personne, hein, elle peut jeûner le lundi et le jeudi, même si c'est après le 15e jour. Même si c'est après demain, par exemple, c'est le Ramadan et aujourd'hui c'est lundi, je peux jeûner. Pourquoi? Parce que ça, je ne le fais pas, yani, nouveau. Mais c'est quelque chose d'ancien chez moi. Le fait de jeûner lundi et jeudi, c'est quelque chose, c'est une habitude. Celui qui a une habitude, comme a dit le messager d'Allah, il a dit celui-là, il peut naam, la faire. Mais de préférence, celui qui n'a pas cette habitude, alors que quoi? Alors qu'il ne fasse pas le jeûne les 15 derniers jours de Sha'ban. Naam. Ensuite, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'elle veut dire pour les autres jeûnes. Naam, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire pour qu'est-ce que ça veut dire les autres jeûnes. Naam, je n'ai pas bien compris cette question. Mousseline, est-ce que tu as compris qu'est-ce qu'elle veut dire par les autres jeûnes?
Non, cher Yannick, j'ai pas vraiment bien compris non plus. Là, quelle est la meilleure façon de jeûner le mois de Shaaban pour quelqu'un qui jeûne toujours le lundi et le jeudi, ainsi que les autres jours de jeûne surérogatoire de l'année? Khair, Inch'Allah, c'est une mauvaise formulation de question, cher. Donc, est-ce que le cher a répondu à votre question, Inch'Allah? Est-ce que c'est ce que vous vouliez savoir? Naam. C'est bon, cher Yannick, vous avez répondu à la question. Barakallahu fikoum. Au prochain, Inch'Allah.
Ubaydallah, c'est à votre tour, Inch'Allah, de poser votre question. Le raid vous a été retiré. Assalamu alaykoum, Cheikhana. J'ai lu une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimallah, qui disait qu'il fallait lever et bouger le doigt entre deux prosternations dans la prière. Et je voulais savoir s'il y a des divergences sur ce point. Quoi elle se base et savoir quel avis était le plus sûr, bi'inillah. Ahyakumallah, qu'Allah nous pardonne et pardonnez-nous de nos comportements ingrats.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Qui saute? Alhamdulillah. Naam. Moi, de ma part, Inch'Allah ta'ala, naam, j'ai pardonné à tout le monde. Et, alhamdulillah, jusqu'à présent, alhamdulillah, personne, bi'idhni azza wa jall, ne m'a fait du mal. Naam, personne ne m'a fait du mal. Naam, si quelqu'un m'a fait du mal, c'est peut-être que parce que moi, j'ai fait du mal. Naam. Sinon, j'ai pardonné à tout le monde, bi-idhnillahi azzawajal. Naam. Ensuite, cette question, il faudrait savoir que Cheikh Ibn Uthaymeen, ce qu'il a dit, naam, c'est qu'il s'est basé sur un hadith da'if, un hadith faible. Abdullah 15, alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Hayakallah ma'ana, ya Abdullah 15. Hayakallah ma'ana. Et Inch'Allah ta'ala, reprends-moi si, Inch'Allah ta'ala, je dis quelque chose de faux. Naam, sans le vouloir, bien sûr. Je disais que Cheikh Ibn Uthaymeen, quand il a dit ça, il s'est basé sur un hadith faible. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, naam, j'ai lu quand il a répondu à Cheikh Ibn Uthaymeen et il a réfuté cette fatwa. Il a dit que ça, c'est faible car ça se base sur un hadith faible. Donc la sunna, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas de bouger le doigt entre les deux prosternations, mais de garder les mains sur les genoux, sur la fin ou le début des cuisses, naam, du côté des genoux, et de dire Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, ou bien de dire Allahumma khfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni, wajburni, warfa'ni, mais pas de bouger le doigt, naam. Fadlan, inshallah ta'ala, le prochain.
Umrayana 5, on attend votre question, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Pendant Salat Sobh, j'ai eu un doute si j'avais fait un ou deux soujoud. Donc, j'en ai rajouté un. À la fin de la Salat, je devais faire soujoud, saruh, sahou, et j'ai oublié. Dans ce cas, que faut-il faire? Barakallahu fikou.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je dis, hayakallah, Ammar Medin. Est-ce que vous m'entendez, Ibn al-Qayyim? Tu as écrit numéro 2. Tayyib. Vous m'entendez maintenant? Alhamdulillah. J'ai dit que dans un cas pareil, les savants ont divergé. Certains ont dit que elle peut faire le sujoud. Elle peut faire ce qu'on appelle les sujoud de distraction, sujoud sew, au moment où elle se rappelle. Même si c'est 2 mois après, 15 jours, elle s'est rappelée, elle fait sujoud sew. Et d'autres ont dit, naam, si ça dépasse un certain temps, ça devient assez long, le sujoud yani est annulé et ce n'est plus la peine de le faire. Naam. C'est comme ça qu'on dit les savants qu'elle le fasse, inshallah ta'ala. Naam, en prenant avec le deuxième avis, qui peut-être est plus prudent, Allah ta'ala alam. Fadlan, inshallah, le prochain.
Ok, je vais relire la question, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour une sœur divorcée, elle a un enfant. Elle a été demandée en mariage par un frère qui est déjà marié et a des enfants. Ils étaient d'accord tous deux sur les conditions de chacun. Mais ensuite, il a ajouté d'autres conditions. Le frère a ajouté d'autres conditions. Il dit que cette sœur avec qui il veut se marier, la deuxième, devra le laisser agir à sa guise au niveau de l'équité entre sa première femme et elle. C'est-à-dire, il pourrait passer plus de temps avec sa première femme qu'avec elle. Cette sœur devrait subvenir à ses besoins ainsi que ceux de sa fille, etc. Est-ce permis? Cette sœur, elle touche le RMI.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. En fait, quand un homme est marié avec deux femmes par exemple, si l'une de ses femmes, par exemple, lui il dit par exemple à l'une de ses deux épouses, il lui dit par exemple, est-ce que tu acceptes que je passe par exemple 5 jours chez, par exemple, la deuxième épouse et 2 jours chez toi. On va vivre comme ça. Il dit comme ça à la première. Naam. Et si la première accepte, ou bien il dit à la deuxième, je vais vivre, par exemple, 5 jours chez la première et 2 jours chez toi. Et la deuxième accepte, naam, c'est permis, bien sûr. Ce qui est interdit, c'est quand les deux, naam, demandent leur droit. On est obligé de leur donner leur droit, qui est ce, yani passer une nuit, yani chaque jour ou chaque nuit avec une épouse. Naam, une nuit ici, une nuit là-bas, une nuit ici, une nuit là-bas, et comme ça. Mais maintenant, si lui, il dit par exemple, je veux rester par exemple un mois chez la première épouse. Et la deuxième épouse dit, d'accord, j'accepte, il n'y a pas de problème. Maintenant, il n'y a plus de problème, car c'est elle qui s'est désistée, elle s'est rétractée de ses droits. Quel est le dalil? Le dalil, c'est l'épouse du messager d'Allah qui s'appelait Sauda bint Zam'a, radiallahu ta'ala anha, une des mères des croyants. Elle a dit à Rasulullah, je donne ma nuit, la nuit que tu dois passer avec moi, je la donne pour Aïcha. Car je sais que tu aimes beaucoup Aïcha et tu ne dors pas avec moi, ça ne fait rien, j'accepte. Mais ne me divorce pas, car il voulait la divorcer, ne me divorce pas, car je voudrais être ton épouse demain au paradis. Car yani, s'il ne la divorce pas, elle sera son épouse demain au paradis. Ce n'est pas comme il va la divorcer. Elle a accepté donc de quoi? De se désister, de se rétracter de ses droits, à condition, yani, pour gagner qu'elle soit son épouse. Donc je dis à la sœur, cela dépend de toi. Si toi tu acceptes qu'il reste beaucoup avec l'autre, ou bien je ne sais pas ce qu'il fasse avec l'autre, et toi tu acceptes, il n'y a aucun problème, inshallah ta'ala. C'est à toi de voir si tu acceptes ou pas. Naam, tfadla inshallah, le suivant.
Saoudia, c'est à votre tour, inshallah, de poser votre question. Salam alaikum, shir. Une sœur se trouvant actuellement dans cette pièce demande. Je suis une sœur algérienne divorcée qui vit en France avec une carte de résidence que je vais devoir renouveler dans 7 mois, Inch'Allah. J'ai deux enfants qui ont la double nationalité, française et algérienne. Je suis actuellement en projet de mariage avec un frère qui vit en Algérie et qui veut que je m'installe définitivement en Algérie avec mes enfants. Ma question est, si je me marie maintenant avec lui...
Ibn al-Qayyim, est-ce que tu es là? Je t'entendais plus, est-ce que tu es là? Ah, alors, tu t'es arrêté de parler. J'ai même senti que tu étais en train de manger. J'ai dit peut-être qu'il est en train de manger des litchis. Ah, il mange des litchis celui-là. Qu'est-ce qu'il est en train de manger maintenant? Tayeb, reprends le micro, de fadla.
Afouan, cher. Je suis actuellement en projet de mariage avec un frère qui vit en Algérie et qui veut que je m'installe définitivement en Algérie avec mes enfants. Ma question est, si je me marie maintenant avec lui, est-ce que je peux retourner en France dans 7 mois pour renouveler ma carte de résidence pour une période de 10 ans, même si je reste vivre en Algérie définitivement, sachant que j'aurai certainement nécessité, urgence, maladie, visite de la famille ou autre, bien sûr, ma niya dans ce mariage et la hijra en Algérie, Inch'Allah.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Naam. En fait, je ne conseille pas beaucoup à celui qui fait la hijra et veut la faire vraiment, naam, de renouveler ses papiers comme ça. Parce que, je disais que, je ne conseille pas beaucoup à quelqu'un qui veut faire la hijra vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, naam, de yani, renouveler comme ça ses papiers, car il aura, s'il renouvelle ses papiers, il aura un pied là-bas et un pied ici. Un œil là-bas, un œil ici. Il vivra là-bas en Algérie, naam, il vivra yani, avec un cœur qui ne sera pas apaisé. À chaque fois qu'il se passe une petite chose, il va dire, je vais rentrer en France. Non. Dès qu'il se passe une chose, il dit, oh, ça ne marche pas ici. J'étais mieux en France. Oh, ici, il n'y a pas cette chose. Et comme ça. Mais quand il sait que, non, il n'a plus les papiers, non, maintenant, il est obligé de rester dans cette hijra et de l'accepter. Non. Il n'a pas besoin de parler à Abdullah. Donc, je donne ça yani, comme conseil. Comme conseil. Non, maintenant, si quelqu'un l'a fait seulement pour... Est-ce que c'est permis ou interdit de la renouveler? Justement, je ne sais pas, Saoudia. Je ne sais pas s'il est permis ou interdit de la renouveler. Je ne sais pas. S'il la renouvelle peut-être avec une niya de pour la maladie ou pour quelque chose comme ça. Peut-être, Naam. Peut-être. Mais je sais que celui qui ne la renouvelle pas, qu'il est mieux. Parce que celui-là, vous savez, quand quelqu'un fait la hijra, Naam, il met dans sa tête qu'il ne revient plus. D'ailleurs, le messager d'Allah, quand il a fait la hijra de la Mecque, il n'est plus revenu vers la Mecque. Il l'a même conquise, subhanallah l'adhim. Il a conquis la Mecque et il n'est pas venu habiter encore une fois. Maintenant, il est libre, il est musulman. C'est lui qui commande, il peut habiter la Mecque. Il l'aime beaucoup. Il a dit dans le hadith sahih, oh toi la Mecque, si ta tribu ne m'avait pas fait sortir de la Mecque, je ne t'aurais jamais quitté. Mais malgré cela, quand il a conquis la Mecque, il n'est pas venu habiter encore une fois. Subhanallah. Inch'Allah, on demandera, inch'Allah, en ce qui concerne le fait de renouveler. On demandera, inch'Allah, ta'ala, aux savants. Naam. Fiki barakallah. Mouahidin, hayakallah, tafadlali. Et rappelle-moi, Mouahidin, une chose. Rappelle-moi la deuxième question que tu as posée dernièrement, subhanallah, et que j'avais notée ici, que je n'ai pas trouvée dans mon cahier. Naam. Tafadlali.
Mouahidine, non, vous n'avez pas le raid. Il me dit qu'il a le raid, Mouahidine. Suivant, Inch'Allah. Donc, Oumou Asma, on vous a retiré le raid. Vous pouvez poser votre question. Salam alaikum. Peut-on faire Rokia aux enfants? Jazakumullah khairan pour tout et bon retour. Allah Issa'el. Amin.
Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatouh. Mouahidine, peut-être tu m'as pas entendu. J'ai dit que rappelle-moi, à part la question du commerce, rappelle-moi la deuxième question sur la vente. Non, pas celle sur la vente. Ah, le Coran, arabe français. Naam, jazakallahu khair. Naam. Parce que j'ai noté cela et j'ai pas trouvé où j'avais noté. Naam. Une seconde, inshallah ta'ala. Inshallah ta'ala. Tayyib. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Non, peut-on faire ruqya aux enfants? Justement, c'est de la sunna de faire la ruqya aux enfants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait la ruqya al-Hassan et al-Hussein. Il les prenait comme ça et mettait sa main sur eux et il disait U'idukuma bi kalimati Allah tamam min kulli shaytanin wa hamam min kulli 'aynin lamma. C'est de la sunna, na'am, de faire la ruqya à ses enfants et c'est bien de la faire par exemple comme ça tous les matins ou là, tous les soirs ou là, na'am, de la faire très souvent, na'am, de leur faire des doigts sur leur tête et comme ça, na'am, pour que Allah subhanahu wa ta'ala les préserve. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il préserve tous vos enfants et nos enfants, bi'idhnillah. Tfadlal. Ummu Asma.
Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Une sœur demande, après le rukou, doit-on dire à chaque fois Al-Bismillah? Ou peut-on réciter directement Al-Fatiha? Et quel est le jugement pour celui qui ne le dit pas? Barakallahu fikoum.
Je demande à Oum Asma, je demande à Oum Asma, est-ce que sa question c'est est-ce qu'on doit dire à chaque fois Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, ou bien quoi exactement, de A'udhu Billah, ou bien de Bismillah, c'est tout. Elle a dit oui, c'est ça, Bismillah. Je n'ai pas bien compris ce qu'elle a dit, c'est pour ça que je vais répondre pour les deux cas, c'est mieux. Naam. Vous savez que quand on dit Allahu Akbar, on commence la salat, on a dit Allahu Akbar, on fait les doigts à l'istiftah. Par exemple, Allahu Akbar Kabira, ou Alhamdulillah Katira, ou Subhanallah Bukratan wa Asila. Ou bien on dit, après avoir dit Allahu Akbar, on dit Subhanakallahumma bihamdik, Tabarak Asmuk wa Ta'ala Jidduk wa La ilaha ghayruk. Et comme ça. Maintenant, après avoir fait les doigts, qu'est-ce qu'on dit? On dit A'udhu Billahi Sami Al-Alim, min Shaitan Rajim, min Hamzihi, ou Nafri, ou Nafri. Bismillahirrahmanirrahim. Et on commence à lire le Fatiha. Naam. Ensuite, on est au deuxième raka, on se prosterne, etc. Maintenant, quand on se lève du sujoud pour commencer la deuxième raka. Qu'est-ce qu'on doit dire? Quand on se lève du sujoud pour commencer la deuxième raka, on dit Bismillahirrahmanirrahim. Et on commence à dire. Pourquoi? Car c'est une nouvelle raka. Une nouvelle raka où on va lire le Coran. Et le Coran, avant de le lire, on doit dire un verset des sept versets de la Fatiha. Donc on dit A'oudhou billahi minash shaitanir rajim, on ajoute Bismillahirrahmanirrahim, et on commence à lire. Naam, c'est comme ça qu'on fait Bi'idhnillahi azza wa jal. Tfadl le suivant, inshallah. Si ce n'est pas compris au mot Esma, dis-moi que je réexplique. Je répète, inshallah ta'ala, je dis. Quand on se relève du ruku', pardon, du sujoud, on s'est relevé. Maintenant, on va rentrer dans la deuxième raka'a. On commence par dire A'oudou billahi min shaitan rajim. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils disent seulement A'oudou billahi min shaitan rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ils lisent le Fatiha. Pour ceux qui connaissent la vraie sunna, ils disent A'oudou billahi min shaitan rajim, min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Ensuite, ils disent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et ils lisent le Fatiha. Ceux qui ne savent pas la doua qui est longue, ils disent seulement A'oudou billahi min shaitan rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ils lisent le Fatiha. Ceux qui savent, ils disent A'oudou billahi min shaitan rajim, min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Ensuite, ils disent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Naam. Et ceux qui veulent plus de détails, alors qu'ils lisent le livre de la salat du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ce livre, masha'Allah, il contient tout, bi'idna azzawajal, et il se vend en France. Il se vend en France et il est même de couleur rouge, si je ne me trompe pas. Naam, inshallah ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplisse de récompense la personne qui l'a envoyé, qui a été la cause pour qu'on l'ait lu. Et je suis sûr qu'elle a profité des hasanat, même si elle était absente, bi'idnillahi ta'ala. Naam, n'oubliez pas d'acheter ce livre pour la salat. Naam.
Salam alaikum. Une sœur demande: est-ce que son futur mari peut se marier sans que ses parents à lui le sachent et un an après refaire le mariage devant eux quand il sera prêt? Quel tuteur doit prendre la femme étant convertie en sachant qu'il n'y a personne de sa famille qui est musulman?
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Une petite remarque, on vient de me dire en whisper, que le livre de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam de couleur rouge, il dit ici, un frère dit, ils n'ont pas eu les droits. C'est-à-dire que celui qu'il faut acheter, il a dit ici, c'est celui de couleur bleue. Wallahu alam, ça c'est celui, il n'a pas les droits d'auteur. Et que il faut acheter bidna azzawajal celui qui est de couleur bleue. Mais vous savez mieux que moi ces choses, inshallah ta'ala. En ce qui concerne quelqu'un qui veut se marier, bi'idna azawajal, naam, si par exemple ses parents sont toujours avec lui et qu'il a des relations très étroites avec ses parents, naam, ça rentre dans le mauvais comportement de se marier sans qu'il sache. Ce n'est pas une obligation qu'il sache. Je dis ça rentre dans le mauvais comportement pour quelqu'un qui a des relations étroites, il est tout le temps avec son père, avec sa mère, etc., et il se marie en cachette. Mais si maintenant, c'est quelqu'un qui habite dans un autre pays ou là, qui est vraiment loin d'eux, naam, ce n'est pas une obligation qu'il sache. Naam, il peut laisser pour après, pour les avertir, bi'idnillahi azza wa jal. Naam. Mais s'il est, comme je dis tout à l'heure, avec eux tout le temps, et il a des relations très étroites avec eux, il vaut mieux leur dire, car vous savez que si c'est un ami intime seulement, naam, qui est intime pour toi, et tu te maries en cachette de lui, naam, il va sentir des choses envers toi. Il va dire, subhanallah l'adhim, il m'a caché cette chose. Qu'en est-il ton père et ta mère qui t'a enfanté? Ta mère, il s'est marié, et il a fait ça en cachette, et il a dû faire le mariage avec la mère de son épouse, etc. Et je n'ai même pas été au courant. Naam. Elle peut même faire des doigts contre toi. Naam. Quel tuteur doit prendre la future femme étant convertie en sachant qu'il n'y a personne de sa famille qui est musulman? Naam, elle prend comme tuteur quelqu'un qui représente les musulmans. Naam. Comme dans un consulat islamique, ou bien une ambassade islamique, ou bien un imam d'une mosquée. Naam, quelqu'un connu de pieux dans le minhaj, etc. Elle lui demande qu'il soit son tuteur. Si elle n'accepte pas, un frère, n'importe quel frère qui remplit les conditions, qui a un peu de science, qui a la sunna, la piété, il peut, inshallah ta'ala, être son tuteur, bi'idnillah azza wa jal. Tfadla, inshallah, le suivant.
Salam alaikum. Quel est le temps à pas dépasser pour la consommation du mariage? Barakallahu fikoum. La sœur me dit, vous n'avez pas répondu à toute sa question d'avant, peut-elle la refaire une deuxième fois?
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, il n'y a pas un temps à ne pas dépasser. il n'y a pas un temps à ne pas dépasser. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est marié avec Aïcha, il est resté 3 ans. 3 ans pour consommer le mariage. De nos jours, les savants préconisent que la femme ne reste pas beaucoup comme sa fiancée, mais préconise au tuteur de la fille de ne pas yani, la marier, de ne pas faire l'acte de mariage jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques temps. Car la femme étant fiancée, et si ils vont rester longtemps pour consommer le mariage, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont obligés de passer par des choses qui ne sont pas bien. Ils sont obligés, et même de consommer le mariage en cachette. Et c'est une chose que les salafs n'ont pas fait. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a épousé Aïcha, elle avait 6 ans, et qu'il a consommé le mariage 3 ans après, jamais pendant ces 3 ans, il ne l'a rencontré, ni lui a parlé, ni lui a téléphoné, ni lui a envoyé un email. Il n'a jamais envoyé d'email à Aïcha radiallahu ta'ala anha. Jamais. Pendant 3 ans. Donc c'est pour ça, le conseil, si quelqu'un veut marier sa fille, qu'il ne fasse pas l'acte de mariage comme ça, il la laisse des années comme ça. Mais qu'il attende, quand il sait qu'ils vont se marier dans 1 mois ou 2 mois, il fait l'acte de mariage. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadla le prochain, inshallah.
Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au fait, je précise, c'est la dernière question, après c'est fini, inshallah. Shir, est-il permis pour une mère de chanter des chansonnettes à ses enfants? Entre parenthèses, si c'est des chansons apprises dans les écoles françaises. Par exemple, les chiffons, fonfon, une souris verte, etc. Ou lui faire écouter des anachides pour enfants. Et je peux vous donner un lien pour que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez. Jazakumullah khairan, qu'Allah allonge votre vie dans son obéissance. Amin.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez? Naam. Quel est le lien qui parle de cela? Je voudrais bien le lire, ce lien. Naam. Mais d'après moi, je dis d'après moi, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Les chansonnettes, comme le genre, les chiffons fanfans, comme tu as dit toi, mais tu n'as pas dit les petites marionnettes. Naam. D'après moi, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, il faudrait éviter les chiffons fanfans, les petites marionnettes. Il faudrait éviter ça. Pourquoi? Parce que c'est des chansonnettes spécialement qu'on ne connaît pas. La souris verte, c'est dommage, je ne la connais pas. Mais je me rappelle que ma mère disait les chiffons fanfans. Elle dit, je me le rappelle. Donc ça se voit que c'est très ancien. Ça se voit que c'est très ancien. Naam. Mais je donne un conseil d'éviter ces choses pour ne pas leur apprendre des choses qui sont propres au kofar. Des chansonnettes pareilles, ce sont des chansonnettes propres au kofar, très connues chez les kofars. Naam. Et nous, pour s'éloigner des kofars et ne pas les ressembler, etc., on va leur lire des choses qui sont, par exemple, en arabe. Naam. On leur lit des choses qui sont en arabe. Ou alors, on leur lit des choses qui ont rapport avec le din, avec, même si c'est en français, avec le din, avec, mais pas des choses qui ont rapport avec les kuffars. Je pense que c'est mieux pour ne pas apprendre à l'enfant comme ça très jeune, on lui apprend comme ça très jeune, des choses qui sont des chansonnettes très connues chez les kuffars. Très connues chez les kuffars. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. C'est seulement mon avis. C'est seulement mon avis. Inch'Allah ta'ala, si je trouve ça quelque part, Inch'Allah ta'ala, je vous le dirai. Bi'idhnillah ta'ala, si je trouve un avis des ulama, subhanahu wa ta'ala. Naam, c'est à peu près comme... Ah, tayyib, je voudrais lire ce lien, Inch'Allah ta'ala. Je voudrais lire ce lien, bi'idhnillah azzawajal, ou bien si quelqu'un a lu quelque chose en ce sens. Si quelqu'un a lu quelque chose en ce sens. Naam. Si Abdullah 15, inshallah ta'ala, est toujours là, envoie-le maintenant, pour que les gens aussi le lisent. Envoie-le maintenant comme ça, pour que les gens le lisent aussi. Naam. Inshallah ta'ala, envoie-le. Mohamed ibn ce lien, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le lien? Qu'est-ce qu'il dit sur les chansonnettes? Si tu peux nous donner maintenant le résultat, c'est mieux pour les gens qui attendent. Qu'a dit ce lien? Les anachides, maintenant je me rappelle qu'elle a dit les anachides c'est moins grave. Non, les anachides c'est moins grave. Ah bon, moi si on me dit que c'est un lien pour enfants. Abou Marwan, tafadhal, dis-nous ce que tu as entendu. Tafadhal, je te donne le micro. Tafadhal.
Bismillah. Salam alaikum. Vous m'entendez, Inch'Allah?
Cheikh,
il y a un savant au Maroc, peut-être vous le connaissez, il s'appelle Abdullah El-Madani. C'est un savant du fiqh qui est spécialisé dans le madhhab malikite. Et j'ai entendu une parole de lui qui parlait justement de ces chansons. Je ne sais pas si on m'entend là. Je ne sais pas si on m'entend. Naam. Où il disait que ce genre de chansons, elles sont faites pour que dès tout petit, les enfants, on leur apprenne et on leur mette dans le cœur ce qu'on appelle les idées fausses. Ça commence par une souris verte, à croire qu'on va éduquer nos enfants, on va les prendre pour des bêtes, parce qu'une souris verte, ça n'existe pas. Et après, ça se poursuit par le Papa Noël, le Père Noël. Et ensuite, après, ça va se poursuivre et ça va se finir par le shirk et la sorcellerie et la magie et la voix du Dajjal. Voilà la parole sur les idées fausses. Ça sert à mettre dans le cœur des enfants ce que lui, il a appelé les idées fausses. Qu'une chose qui n'existe pas, elle existe. Qu'une chose qui n'est pas possible, elle est possible. A'oudou billah. Salam alaikum.
Jazakallahu khair, barakallahu fik. Barakallahu fik, naam. C'est à peu près dans le même sens que j'ai dit, naam. En disant Papa Noël, tu m'as rappelé que quand j'étais jeune, on m'a beaucoup dit qu'il existait. Et je l'ai beaucoup, beaucoup attendu devant la cheminée. Je l'ai beaucoup attendu devant la cheminée. Naam. Wallah, que je croyais que vraiment il existait, qu'il descendait. Naam. Mon grand-père, là, ma grand-mère me disait. Il descend par la cheminée et il pose des jouets et il partait. D'ailleurs, une fois, pour terminer, une fois, parce que vous savez, il n'est toujours pas venu. Une fois, vous savez, je vous ai dit que je n'ai pas été élevé chez mes parents. J'ai été élevé chez mes grands-parents, ça vous le savez. Et une fois, je passais la nuit chez mes parents. Je passais la nuit chez mes parents, c'est-à-dire à 12 km loin de mes grands-parents. Une fois, il était peut-être 4 heures du matin. 4 heures du matin, et naam, donne-moi le lien. 4 heures du matin, ma mère me réveille, elle m'a dit, il y a le chauffeur qui est venu te prendre, le chauffeur de mon grand-père. Subhanallah, 4 heures du matin, 5 heures du matin, où vais-je aller? Quand je suis allé à la maison, c'est-à-dire chez mes grands-pères, je suis arrivé, je ne sais pas, à 5h30 ou 6h, je ne sais pas, du matin. Hein, j'ai trouvé ma grand-mère là, Yerhama, qui m'attendait. Hein, elle m'a dit, tu as oublié que c'est aujourd'hui, que c'est cette nuit que Papa Noël est venu. Toi, tu n'étais pas là. Regarde qu'est-ce qu'il t'a mis comme jouet dans la cheminée. Et je me souviens, là, Yerhama, entre les jouets, il y avait un fusil en plastique. Hein, et moi, vraiment, je croyais que c'était lui qui était venu. Naam. Il dit, Mashallah, il est venu la nuit, il est descendu, Mashallah. C'est comme ça qu'on apprend aux gens. J'ai pire que ça. Atfadl Abou Marwan, apprends-nous, donne-nous qu'est-ce qu'il y a de pire. Je sais qu'il y a pire, mais que Allah Azza wa Jal yani, pardonne à nos parents, nos grands-parents, naam, qui n'ont pas connu l'islam, qui, bien sûr, ont vécu autant de. La colonisation de la France, etc. Allah Azzawajal leur pardonne et les fasse entrer au paradis. Car ma grand-mère, en disant cela, bien sûr, elle croyait qu'elle faisait du bien. Elle croyait que elle faisait du bien. Allah yirhamha. Tfadhal Abu Marwan.
Naam, bismillah, salam alaykoum. Vous m'entendez, Cheikh? Naam, la dernière fois, il y avait une personne avec moi qui avait posé une question, vous lui avez répondu. Son kunya, c'était Abu Rayyan. Abu Rayyan, si peut-être vous vous souvenez de lui. Eh bien, Abu Rayyan, ben, c'est l'oncle d'un petit qui s'appelle Rayyan. Et Rayyan, quand il avait 6 ans, il était à l'école primaire. À la fin de l'année scolaire, au mois de décembre, la maîtresse, elle leur a dit, on va faire une fête pour le Noël, le Père Noël, comme ça. Et le petit Rayyan, il a dit devant tous les élèves, hein, écoutez bien, il a dit devant tous les élèves, il a levé la main, il a dit, Madame, le Père Noël, il n'existe pas, c'est Allah qui existe. Alors la maîtresse, elle est devenue toute rouge, elle l'a puni. Parce qu'il a dit ça devant tous les enfants. Et qu'est-ce qu'elle a fait? La maîtresse, elle a convoqué la mère de Rayyan, elle a convoqué sa mère. Alors la mère, quand elle est partie à la convocation, elle s'est dit peut-être mon fils, il a fait des bêtises, il a dit des gros mots, il a frappé quelqu'un. Elle s'attendait quelque chose comme ça. Et donc la maîtresse a dit, ben voilà madame, votre fils, il a dit devant tous les enfants que le Père Noël, il n'existe pas, que c'est Allah qui existe, il faut lui apprendre à pas dire ça dans la classe, ici c'est l'école laïque et tout. La mère, elle lui a dit, mais vous m'avez convoqué, vous m'avez fait venir jusqu'ici pour ça, moi qu'est-ce que vous voulez que je reproche à mon enfant alors qu'il a dit la vérité? Bon, il l'a dit en public, mais bon, moi je ne peux pas lui reprocher d'avoir dit la vérité. Et l'histoire, elle s'est terminée comme ça. Mais ce que je voulais vous dire de pire, c'est que il y a un frère, écoutez bien, il y a un frère dans sa famille, et lui, ils étaient tellement ignorants de l'islam, que vous savez ce qu'ils croyaient? Ils croyaient que Mohammed Rasulullah, c'était un homme, que son prénom c'est Mohammed, et son nom de famille c'est Rasulullah. Comme par exemple, il y en a un, il s'appelle Jamel Amidouche. Jamel, c'est son prénom. Amidouche, c'est son nom de famille. Et bien lui, il croyait, depuis qu'il est tout petit, que le prophète de l'islam, son prénom, c'est Mohammed, et son nom de famille, c'est Rasulullah. C'est adib quand même, ce degré d'ignorance. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Il y a du son? Cheikh, vous m'entendez? Naam. Et vous savez c'est qui? Vous savez c'est qui cette personne-là? Qui croyait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son prénom c'est Mohammed et son nom de famille c'est Rasulullah. Cette personne c'est Abu Marwan quand il avait 23 ans. 23 ans, je croyais ça et je n'avais jamais mis les pieds dans une mosquée de toute ma vie. Et le mot ablution, je ne savais même pas que ça existe. Et le mot hadith, alors pour moi ça venait d'une autre planète. Mais alhamdoulilah que Allah il nous a guidés, il nous a instruits, parce que comme vous avez dit, nos parents, nos familles, parfois, ils n'ont pas pu faire le travail. Le frère Abdallah Kain, s'il est là, Inch'Allah, est-ce qu'il peut prendre le micro pour revenir, Inch'Allah, sur ce que je lui ai dit en privé? Barakallahu fik akhi, salam alaikum.
Alaykum salam, rahmatullah wa barakatuh, jazakumullah khairan pour ce petit rappel sur Papa Noël. Naam. Justement, j'allais dire directement après Abu Marwan, j'allais demander à Abdallah Kainz. Abdallah Kainz a des choses sur Papa Noël. Tfadhal Abdallah Kainz, jazakallahu khairan.
Assalamu alaykoum wa rahmatullah. Sarahat ma indi shay cheikh, alhamdulillah, ana afani Allah. Ahmaduhu wa mashkuruh. Alhamdulillah. Malgré que mon père il était illettré, mais alhamdulillah, Ahmadullah wa shkura. Malgré qu'il était illettré, alhamdulillah, yani, il était sur le fitra, n'hsibuhu mouwahid, wa lillahi alhamd. Fa ma indna hadi l'umur, wa lillahi alhamd. Wa la yom. Je connais même pas le nouvel an, alhamdulillah. Alhamdulillah, afanallah, shaykhana barakallah fik. Fi s-sin al-mubakr, an hadana, wa aslahana fi fadlillah azza wa shallah nidoumna. نعمته علينا وعليكم الحمد لله فضل الله عز وجل يعني نعم كان الله عز وجل يعني nous a montré la mosquée le masjid يعني كون j'étais petit, oulillahi alhamd. Donc, nahmad Allah, on shkora. Donc, je suis nul, akhi, barakallah, fik shaykhana. Je connais rien de Papa Noël. Ahmad Allah, on shkora, ala dalik. Vous remettez en garde contre cela. Ya akhi, chauffe, Abba Marwan, Allah yahfazak. Omar, radiallahu anhu, amithouha bi'adami zikriha. Amithouha bi'adami zikriha. Yani, deux fois, on fait de la publicité pour des gens pour rien. On a déjà parlé, barakallah fik, hafidhak Allah wa ra'ak, anna hadha ar-rajul miskin muflis. Hadha ar-rajul la 'ilma lah. Hadha ar-rajul naghyan, barakallah fik. Hadha ar-rajul la 'ilma lah, jazakallah khair. On nous connaît depuis X temps, barakallah fik. Je suis au partout, akhi Abu Marwan, même si je ne rentre pas souvent. Mais je suis ici depuis les années 90, quand le portail est ouvert. C'est Cheikh Oubaid qui m'a demandé de venir. Le pape, yani, quand Cheikh Oubaid donnait le dros comme Cheikh Tchalbi maintenant, on participait avec Cheikh Oubaid. Hakada. Le frère Miskin, akhi barakallahu fik. Sadaqa man qal, man akthar al-jidal, akthar al-tanaqul. C'est lui qui polémique trop, il va se déplacer dans les groupes. Une fois il était djihadi. Maintenant, il est tekfiri, mais avec le hardcore tekfir, comme les hijra ou le tekfir, et que pour tout ce qui bouge. Demain, peut-être il sera mu'tazili, après demain, peut-être chi'i. Et vous ne serez pas surpris, ikhwani barakallahu fikoum. Vous ne serez pas surpris. Hein? Qallat al-ilm. Hein? Ahbashi, pourquoi pas? Pourquoi ces gens n'essayent pas de. Essaye de répondre à l'ahbash et de défendre la sunna. Essaye de montrer aux gens le tawhid et de montrer aux gens tout ce genre de choses. Al-anbiya ou al-rasul. Est-ce qu'il parle juste quand il parle de tawhid, kul hukm, kul hakimiyya? Moussa alayhi salam, quand Allah azza wa jal, lui a donné Haroun comme un aide. Il a dit d'aller vers Pharaon. Pharaon, il est un tari, un kafir. Il a dit, dis-lui des paroles sages et doux. Qawlan layyinan, la'allahu yadhakka. Hadi awwalan, shufu ad-da'wa. Kafir, hada nabiyullah, ashraf khalqallah. Wa hada aswa khalqallah. Mais malgré tout ça, Allah a dit, qul lahu qawlan layyin, la'allahu yadhakka. Hada Pharaon. Wa shuf khitab Allah azza wa jalla li Musa alayhi salam. لما أبى فرعون كفر فرعون أغشت المساج لموسى إلى كومبات موسى إلى تولي المسلمين طند موسى فرعون نبا نقول بادي جفار ان كو ديتا وكو تجيش با بار الحكم دالله يدي اترك معي بني إسرائيل لسي بني إسرائيل بكم بس دعوة الأنبياء سباسف توحيد العبادة الحكم بما أنزل الله فرع une branche de tawhid. Il est où le reste de tawhid? Donc, al-tanattu', comme a dit le Nabi, halaka al-mutanatti'un. Al-mutanatti'un sont des gens yani, qui excident dans des choses. Al-shi'a yatanatta'un fi ali bayti rasulillah. Nous, on aime ali bayti rasulillah. Mais pas comme les shi'a. Fadda shaykh al-barakallahu fik.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Je commence par répondre à mon frère Mohamed Ibn Idris. Je lui dis que le site, je l'ai copié, je l'ai caché chez moi. Je ne peux pas voir Mohamed Ibn Idris. Quand je suis sur Partalk, je suis sur proxy. Quand je rentre sur proxy, je ne peux pas ouvrir l'Explorer. Je ne peux pas ouvrir les sites, etc. C'est pour ça que je ne peux pas le voir maintenant. Je l'ai copié pour le voir, Inch'Allah Ta'ala, après. Akhi Abdullah 15, Alhamdulillah. Akhi Abdullah 15, écrit numéro 1, si tu es là avec nous, Inch'Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Akhi Abdullah 15, moi aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est mon dernier cours parce que je vais m'absenter d'aujourd'hui jusqu'au mois de septembre. C'est-à-dire, je dois m'absenter tous les jours qui vont venir, c'est-à-dire un mois et quelques. Naam. Est-ce que tu peux, Inch'Allah Ta'ala, leur donner une nasiha? Naam. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? quand yani qu'est-ce qu'ils doivent suivre, qu'est-ce qui est, et comme ça. Naam. Et moi inchallah ta'ala, pendant le mois de d'août, inchallah ta'ala, je rentrerai de temps en temps inchallah ta'ala pour vous passer le salam ou bien pour faire un petit rappel comme ça. Naam. Surtout si c'est le Ramadan, surtout pendant si c'est le Ramadan, je sais pas c'est quand le Ramadan, mais pendant le Ramadan, j'aime inchallah ta'ala faire quoi? Faire des rappels comme ça la veille. ولا لا في يعني لا نوي ان شاء الله تعالى تفضل الاخ عبد الله بارك الله فيك تفضل
السلام عليكم جزاكم الله اخوان الايه لعله يخشى يا في دو ايه لوت كي دي وما يدريك لعله يزكى مي لا ايه كجولي دي سي لعله يخشى ان فاكي ما كوريجي جزاه الله خير وبارك الله فيه يخشى كان الحاصل جزاكم الله خير يعني جوست بور تيرميني لي دي كو جافي سي كو بارك الله فيكم يعني هذا فرعون أكفر عباد الله وأطغى عباد الله ما قلت سا الله عز وجل دموند يا موسى d'être يعني دو avec lui et quand il a refusé il a rejeté le message il m'a dit laissez avec moi بني إسرائيل pour le faire الدعوة et pour faire le توحيد sur أرض الله النبي صلى الله عليه وسلم à Mecca في مكة il a resté combien 10 ans في مكة avec الكفار Ils leur donnaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam des postes. قالوا إن أردت سيادة سيدناك. Si vous voulez être يعني, سيادة, un poste avec nous, vous vous donnez un poste quand vous voulez. سيادة, tu deviens يعني, quelqu'un noble pour Quraysh. Si vous voulez la plus belle femme de Quraysh, on vous la donne, etc. De l'argent, on vous donne de l'argent. Mais Nabi Sassi n'a pas dit, oh, comme ça je vais faire le choukm. Pourquoi comme ça je vais arriver au choukoum direct? Il a dit non. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit Nabi Sassin? Si vous mettez la lune et le soleil sur ma gauche et ma droite, je ne laisserai jamais ce dîn jusqu'à la fin. Hassan ikhwan izakam al khair. Yani l'insan, comme taqoul al qa'id, ma la yudraku jullah, la yudraku kullah. C'est-à-dire si on ne peut pas aboutir à tout, à la plupart d'une chose, on ne la délaisse pas totalement. Le premier, on ne la délaisse pas totalement. On fait ce qu'on peut. On commence par nous, on juge par Hukm Allah Azza wa Jalla, sur soi-même, ainsi que nos familles et ceux qu'on a la responsabilité sur eux, nos femmes, nos enfants, etc. On a déjà parlé sur ce sujet, barakallahu fikum. Comme a dit Allah Azza wa Jalla, que nous avons dit certains d'entre nous, c'est Ces gouverneurs sont une réflexion du peuple. Comme a dit Ali ibn Hussein, a dit Allah, قَالَ كَمَا تَكُونُ يُوَلَّ عَلَيْكُمْ L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il a bien expliqué. Il a dit, quand les gens ne sont pas justes envers eux-mêmes, Allah va leur donner des gouverneurs qui seront injustes envers eux. Donc, on revient à la base qui est dans le verset, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسكم. Qu'Allah va pas changer une nation, un peuple, jusqu'à on se change soi-même, le changement individuel. هكذا إخواني جزاكم الله خير. Donc هذا الرباط وهذه الدعوة و tout ce qui concerne هذه الأمة, ça commence par soi-même. Comme النبي صلى الله عليه وسلم a commencé في بيت الأرقم, il s'est propagé, c'est comme ça l'islam qui va se propager. C'est pour ça on entend الشيخ الألباني رحمه الله répéter la phrase التصفية والتربية. التصفية والتربية. Filtrer quoi? On filtre le din. Le din qui a des innovations, des hadiths qui sont faites, qui sont accrochés avec ce din. Barakallah fikoum. Pourquoi on voit tous ces groupes, les soufis, les ikhwani, les mu'tazila, les khawarij, avec toutes leurs couleurs? Pourquoi? Pourquoi Ikhwani? Parce qu'un innovateur ou bien il prend un hadith faible, il l'entend citer, il le devient pour lui, yani hadith sahih, ou bien il va prendre un hadith sahih, il va lui donner un ta'wil qui n'est pas le vrai ta'wil des salaf, yani une mauvaise interprétation. C'est ça un mubtadi', il ne sort pas de ça Ikhwani zakum Allah. Il n'y a pas une troisième chose. C'est pour ça que Nabi a dit « Inna Allah hajab al-tawba » comme a dit « Ala al-mubtadi'a » ou « Ala al-mubtadi'a » qu'Allah a caché la repentance sur un mubtada' innovateur. Pourquoi? Parce que lui, il pense qu'il est sur le haqq. Moi, ce que je veux dire aux frères et sœurs, jazakumullah khair, c'est que, barakallahu fi, akhana wa shaykhana, al-fadil, Mohamed Chalabi, وأسأل الله لي وله الإخلاص والمتابعة في الأعمال والأقوال وأسأل الله أن يجعلنا وإياه وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يدخر له كل عمل هذا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون وكما قال من لا يشكر الناس كما قالت عائشة أعتقد لا يشكر الله فحق الجزاء الإحسان إلى الإحسان فجامي Oubliez l'ihsan, le bien des autres. Khasatin fi dhahr al-ghayb, pas devant. Faites le dua pour le shir, zakum Allah khair. Ou faites le dua pour lui. Hadi awalin. Deuxièmement, il s'arrange dans ce qu'on appelle hiyyat al-talib al-ilm. Les manières, adab talib al-ilm. Vous êtes tous des étudiants, inshallah. Les étudiants, yani. طلاب العلم sont différents même si vous venez juste avec le Cheikh Chalabi c'est suffisant بإذن الله تعالى faut avoir l'ikhlas أولا يا إخوان si on n'a pas l'ikhlas on n'a rien si on n'a pas l'ikhlas on n'a rien on fait ce qu'on fait pour Allah Azza wa Jal on étudie pour Allah on apprend Kitab Allah pour Allah Azza wa Jal on apprend les versets pour Allah on apprend قواعد أهل العلم les bases et tous يعني ces choses c'est pour Allah Azza wa Jal on ne fait pas pour se mettre en valeur devant tout le monde il faut on apprend كما قال علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال بالعلم avec le savoir et vous connaissez tous le chapitre de l'imam al-Bukhari باب العلم قبل القول والعمل العلم précède tout son علم Son ilm, on n'a rien. Et هذا, أهل العلم disait, من تعبد, celui qui adore son savoir, il va détruire plus qu'il va faire du bien. فقد أفسد أكثر مما أصلح. Vous voyez, إخوان? أفسد أكثر مما أصلح. Donc tout se base sur l'ilm. Mais les attributs de la da'wa salafia, de la da'wa d'Ahl al-Sunnah al-Jama'a, c'est que elle a une continuité. Elle a une continuité. Ça ne veut pas dire que si le shikh n'est pas ici, khalas, les frères vont rentrer dans les salons d'Ahl al-Bida' et ne vont pas réviser, ne vont pas écouter les doros qu'ils ont déjà fait, ce qu'on appelle le zikiyat al-ilm. Eux-mêmes peuvent transmettre ce qu'ils ont appris aux gens. Premièrement, c'est une da'wa. Deuxièmement, pour eux, c'est un rappel. Haya Ikhwan. Yani, ça, c'est pas bien. Ça veut dire que ces gens n'avaient pas une bonne intention, n'avaient pas l'ikhlas. Pour avoir ce jour d'ikhlas, il faut premièrement التوحيد الخالص لله عز وجل. Il faut connaître Allah عز وجل. Quand on connaît Allah avec ses noms et avec ses attributs, comme Allah a voulu, Alhamdulillah, de plus qu'on connaît Allah, de plus qu'on aime Allah. De plus qu'on connaît Allah, de plus qu'on adore Allah avec ce qu'on a connu, plus que celui qui ne le connaît pas. Depuis qu'on connaît Allah, on a plus d'ikhlas. Hada al-tawhid. L'ikhlas la yati illa bil ilm al-tawhid. Haya ikhwan. Hadi awan. Thumma, jazakum Allah khair, insan yujahid nafsa. Faut se combattre. Hada wal jihad al-a'zam. Yujahid nafsa. Hein? يجاهد نفسه يلوف كتاب الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا بالقرآن ها يجدي شاك جور je prends شاك جور au moins si tu peux 20 versets tu lis au moins 20 versets si tu peux plus الحمد لله mais pas moins de 20 versets chaque jour ou 30 ça dépend de la capacité de la personne لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال أدومها ويقلها Les meilleurs des actes sont les autres qui continuent, même s'ils sont peu. Vous prenez yani, un ahd avec Allah Azza wa Jal. L'ahd avec Kitab Allah Azza wa Jal. حتى يأتي القرآن أن تخسسه يشفع لكم يوم القيامة. وهو لي برومي ليفر سوغ التوعيس كتاب الله عز وجل. دونك أنا أنصحكم وأنصح نفسي أولا وأنصحكم يا إخوان بكتاب الله. الشيخ ني با ايسي ني با لا أوفري كتاب الله دو تخوا فوا باغ جور ليزي كتاب الله عز وجل. هذه أولا وقبل كل شيء. إيسيي أفيك فوتخ فامي دو بروند أن ليفر دو حديث أن يبدو الإمام البخاري مختصر صحيح البخاري لو غزيمي دو صحيح البخاري ها وليزي أن حديث شاك جور سي فوزيت ماريي فو سي فوزيت أفيك تي بارون. والله يا إخواني لا تحقر من المعروف شيئا دي با سيغي أن حديث جو با مو جو دوموند أ با ميموغوزي باغ كور جوست لير أن حديث تشوف أن حديث عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وليزي الحديث et vous donne, si vous pouvez, une explication, sinon juste le hadith. Juste le hadith suffira, inchallah. Vous savez, chaque année, vous allez lire 365 hadiths. On va se demander soi-même, est-ce qu'il y a un frère ici qui lit chaque jour? Non, des fois on lit un hadith, des fois deux hadiths, des fois on ne lit rien. Mais هذه المتابرة على العمل الصالح, la continue sur ce jour de... sur les bons actes, فيها بركة يا إخوان, il y a le بركة, il y a le بركة. Donc lisez ce genre de choses, كتاب الله عز وجل ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم, هذا هو العلم. قال الله قال الرسول قال الصحابي. Écoutez les دروس que الشيخ a fait, يعني غير في ces دروس. Si vous pouvez, بارك الله فيكم, si vous pouvez entre vous, inshallah, le frère Ibn Qayyim par exemple, et avec l'aide du frère Tamallah et les autres frères Abou Marwan, yani vous prenez un verse, vous le mémorisez et vous essayez de donner un quiz pour les frères et sœurs. Ici, quand le dars que Cheikh a fait sur le Boudou ou quelque chose comme ça, et vous donnez genre de quiz, alhamdoulilah. Et هذه تذكرة فقط inshallah. Alhamdoulilah, il y a le frère Abdelmal qui va venir aussi inshallah, qui a ses deux roches. Restez avec le frère et le cheikh va rentrer une ou deux fois par semaine inchallah, même si pour une demi-heure inchallah, alhamdoulillah, il y a mieux que rien. Mais barakallah fikoum, moi ce que je vous demande jazakumullah khair, pour charger la batterie, il faut toujours penser à ce que il nous attend yawm al-qiyamah. C'est pour avoir l'ikhlas. الإمام الحسن البصري جو با تاردي إن شاء الله إخوان, قيل له ما سر زهدك في الدنيا؟ ودمد الإمام الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه, يعني الزهد شو باكم بون ندير اون فرونسي مي كيلكان كي ديفورسي سا الدنيا, إنسان زاهد عابد. يعني سيكون يكون كو عبادة كو لادوغاسيون دالله عز وجل بغيان دو سد دنيا, يعني يترفع عن الدنيا, طلق الدنيا بالثلاث إلى ديفورسي سد دنيا كون ديغاش تخوا فوا. لو فخار كيما دي لاسيتيزم, جزاكم الله خير, سي لاسيتيزم جزاكم الله خير, بارك الله فيك. هذا هو الزهد. قال كون طاي طون زهد. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة, قال premièrement, إخوان, علمت بأن رزقي لم يأخذه غيري فاطمأن قلبي له. Il a dit, je suis que ma provision, mon risque, personne ne va le prendre. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا يموت العبد حتى يفلسق. يعني, il ne va pas se préoccuper avec ce qui est devant Allah Azza wa Jal, ce qui est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Il a dit, خلاص, علمت, je suis que risque بيد الله. Pourquoi je vais, يعني, subhanallah, pourquoi je vais être قلق, préoccupé avec ce qui est avec Allah Azza wa Jal. قال, فاطمأن قلبي. Son cœur اطمأن. خلاص. وعلمت بأن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به. Et je suis que mes œuvres, personne ne va les faire pour moi. Donc je me suis préoccupé avec mes actions, mes œuvres. Parce que personne va les faire pour toi. Personne ne va lire un livre pour toi. Personne ne va faire un salat pour toi. Et dit, je savais, je suis que personne ne va faire mes actes pour moi. Comme Allah dit, وَلَا تَزِيرُ وَازِلَةٌ وِزَاوْخَ. Chaque personne est jugée d'après ses actes. Deuxièmement, فَلَمَّ عَلِمْ قَالَ فَاشْتَغَلْتُ بِهِ. Quand je suis que personne ne peut faire mes actes, je me suis préoccupé à faire mes propres actes. وَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ فَاسْتَحَيَيْتُ أَنْ أُقَابِلُهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ. Et je suis qu'Allah Azza wa Jalla me voit partout. Et tous les jours, là où je suis, Allah me voit. Donc, estahayt, c'est timide, c'est ça, estahayt, timide. De désobéir Allah, de faire des péchés quand je suis qu'Allah me voit. Hein? Vous connaissez l'histoire d'Abu Bakr. Il prenait la douche avec son qamis. Il estahayt Allah au point, au salaf al-salih, il ne pouvait même pas enlever leur vêtement quand il prenait des douches. La honte, Zakallah khair. Hada la honte. La honte, Zakallah. وَعَلِمْتُ أَنَّ الْمَوْتَ يَنْتَظِرُنِي فَأَعْدَدْتُ الزَّادَ لِلِقَاءِ اللَّهِ. Et je sais que la mort m'attend. Hein, Yahwan? Et je sais que la mort m'attend. Je me suis préparé. J'ai préparé الزَّاد. J'ai préparé ce qu'il fallait, la provision, pour rencontrer Allah Azza wa Jal. Voilà comment faire. Il faut toujours penser, barakallahu fikoum, il faut toujours penser à ça. Parce que vous dormez, peut-être vous n'allez pas vous réveiller. Même si vous dites on est jeune, là, attaqwa na'am, wa khayru zad, attaqwa na'am. Même si vous êtes des jeunes, al-mawt lamma ya'ti, il ne va pas faire une différence entre une femme et un homme, un noir et un blanc, un vieux. Ou un jeune. Aïna ma takoun ou yadrikkum le mort. Walau kuntum fi bourrojin ou shayyada. Tadakkaru hadim al adda. Tadakkaru le mort, ikhwani. Bidhikri le mort, yati inshaAllah l'ikhlas. Fa'arif annak idha amalt amal. Quand tu fais une chose, c'est, tu ne fais que pour Allah. Si tu fais pour une personne, cette personne ne va pas t'aider. Yom al qiyama. Elle peut rien te faire dans cette vie. Hein? Elle peut rien te faire dans cette vie. Prends le cas, un frère qui va se mettre en valeur devant tout le monde, il a un peu de savoir, ou il connaît un peu de hadith, il fait des polémiques, les gens disent, oh, masha'Allah. Wallah, masha'Allah, il était étudiant ici, ici, une chose dans le dîme. Est-ce que ce genre de choses va l'aider dans cette vie? Non, rien. Ils vont pas payer le loyer pour lui. Hein, Erwan? Il y a un yom al-qiyama, c'est encore pire. Donc vous allez perdre les deux vies, les deux vies. Cette vie et la vie, yom al-qiyama. C'est pour ça, pour Allah, pour qu'Allah accepte nos œuvres, nos actes, il faut avoir l'ikhlas. Il faut avoir l'ikhlas et que les actes doivent être sur la sunna, al-mutaba'a. Que les actes doivent être dans le din, al-mutaba'a, l'ikhlas. C'est pour ça. Si on pense toujours, comme il disait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, quand, si je dis à n'importe quel frère ou sœur dans le salon, imaginez-vous, si le docteur vient, il va te dire, il te reste une semaine à vivre, ou bien c'est votre dernier jour. Ne me dites pas que vous allez faire un salat sans khushua. Ne me dites pas que vous n'allez pas faire un tawba. Ne dites pas que vous n'allez pas craindre Allah Azza wa Jal. C'est ça, la nature d'une personne. Mais parce qu'on veut ce dunya, c'est le dunya qui nous fait oublier Yom al-Qiyama. Et le dunya qui nous fait oublier Yom al-Qiyama, c'est qu'on va vivre ici pour de bon. Le shaytan, le dunya. Mais quand on pense au Yom al-Qiyama, quand on pense au Hadim al-Dad, les destroyers, c'est ça? Des désirs qui montent, on recule un peu et on commence à penser aux tentations. Naamari, les tentations. Et quand il barakallahu fikum, comme le sha'ir dit, il y a un poète que j'ai bien aimé qui dit ولم أرى مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل طيب وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف والشيب للرأس شاعر يعني دي يعني ما أقبح حاجة القبيحة حاجة كي ني با بيان لي جون كي فون با أسي دي فو كونت إي سون جان إي سي أونكور بير إين فو فوز إت أدولت Et vous avez ce qu'on appelle shib, yani tes cheveux deviendront blancs. Wal'ayadu billah. قال ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل. Tu vas quitter cette vie, cette dunya, que avec le taqwa, que avec vos bonnes œuvres. Que avec vos bonnes œuvres. Il dit وأيامنا تطوى وهن ما راح يعني nos jours sont pas يا إخواني قلائل فعمرك أيام وهن قلائل يعني notre vie والله يا إخوان vous demandez à Cheikh Chalabi vous demandez à moi que je suis un peu plus âgé que vous et moi je demande à mon père et ainsi de suite والله يا إخوان la vie ça passe vite والله يا إخوان ça passe vite والله ça passe vite يا إخواني حتى روي أن نوح عليه السلام كي أبكي نفسه سيكونت لا أعرف حتى هذا الأثر قال كيف وجد حياته قال كأني دخلت من باب وخرجت من باب سيكونت je suis rentré d'une porte je suis sorti d'une autre porte نفسه سيكونت فما بالكم هاي أخوان أين آدم عليه السلام أين الأنبياء الذين كانوا من قبل كلهم ذهبوا وأفضوا إلى ما قدموا أين الملوك هاي أخوان ينو نحن أمة الستين même si on vit 60-70 والله c'est rien يا إخوان والله c'est rien pensez يعني celui qui a 20 ans qui recule un peu qui pense un peu quand il était 5 ans 6 ans c'est comme c'était hier والله c'est comme c'était hier يا إخواني hein? C'est pour ça زاكم الله une fois le chef il n'est pas avec nous يعني nous on doit prouver qu'on ne le faisait pas pour le chef on le faisait par Allah عز وجل on continue ها؟ on continue vers الحق on continue vers الله عز وجل pour prouver à soi-même qu'on avait l'ikhlas qu'on avait la sincérité إخوان il y a plusieurs méthodes comme je vous avais dit زاكم الله pour réviser on révise entre nous ها؟ on révise entre nous إخواني بارك الله فيكم on essaye de réviser dans le salon en jour de quiz en écoutant les doros en essayant d'écrire, hein, et j'oublie de vous dire ça, l'ilmu yuqayyid ya ikhwan, wallahi si vous écrivez, vous allez, je vais vous dire une chose, essayez d'écouter une cassette, par exemple, prenez un dos de Cheikh Mohamed Chalabi, et écoutez-le une fois, et essayez d'écouter et écrire, et vous allez voir une grande différence, combien vous allez retenir quand vous écrivez, et combien vous allez retenir sans écrire. Vous allez voir qu'il y a une grande différence. Quand vous écrivez, vous allez retenir plus. C'est pour ça, celui qui a étudié le Coran au bled, on faisait avec l'alwah, les ardoises. Pourquoi on ne faisait pas avec le Coran? On écrivait. Pourquoi on écrivait? Pourquoi? C'est pour qu'il reste. Kitab Allah, il reste avec nous. Quand tu écris, يعني تبغى الميموريزي plus facilement et restera plus longtemps. فايسي d'écrire جزاكم الله خير et gardez ce que vous avez appris et quand vous aurez le temps par exemple la sœur elle ramène des sœurs chez elle ou bien dans sa maison avec leur père avec son père avec sa mère et fait ce que vous pouvez vous يعني faut pas donner tout le dars comme le cheikh le fait. Non. Faites un résumé. Wallah, je le faisais avant avec mon père et ma mère. Wallah, et mashallah, tabarak. Et vous allez rigoler. Vous allez apprendre et rigoler en même temps. Vous pouvez même faire un quiz pour ton père et ta mère. Mais vous allez rigoler. Vous allez. Tajma' al-a'ila. Maintenant, la famille est morte. Les gens mangent avec la télé. Il a un filet qui détruit la famille, personne ne parle avec personne. Et c'est ça, surtout ceux qui vivent en Europe. Donc il sait Zakum al-Nakhir. Hatta tu zakku ma ta'allamtu min al-ilm. Ce qu'on appelle tazkiyat al-ilm. En essayant de propager. Inch'Allah. Barakallah fikum. Le cheikh ne va pas tarder. Et on essaie tous d'apprendre. On est tous ici. Quand je dis on est tous des étudiants, je veux dire, comme le cheikh Albani dit, alors on n'est rien. Mais je veux dire, pour l'âme, qu'on veut apprendre. On veut étudier le dîn. Et je vois des frères, ils veulent apprendre à tout prix. Les frères qui me contactent, subhanallah, tous les jours, en disant, sur le fait qu'ils veulent aller étudier au Yémen, l'autre, il veut aller à Médine. L'autre, subhanallah, il veut vendre toutes ses affaires pour aller. Alhamdulillah, inshallah, دليل على صفاء نيتهم وحبهم لهذا الدين. Parce que si on aime le din, نعظمه. إن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. Si on a le respect pour le din, le respect pour le savoir, ça veut dire qu'on l'aime. Et si on l'aime, ça veut dire qu'on a le iman. Et si on a le iman, inshallah, صلى الله لنا ولكم ذلك. النصيحة أوصيكم. نعم هذا اللغة يا أخي. C'est lui qui me définit une النصيحة. On commence par la langue, يا أخي. Qu'on appelle adawat, les outils. L'ilm se divise en deux, ikhwan, صح ou non, monsieur, صح. Ilm al-ghaya ou ilm al-maqasid. Ilm, ce qu'on appelle ilm, le savoir des outils. Yani, par exemple, ilm al-hadith, ilm al-lugha, halou ga'a les outils. Un ilm, des outils, et ces outils vont nous aider pour comprendre l'ilm. Qui est l'ilm direct, qui est قال الله قال الرسول. On ne veut pas comprendre un verset si on n'a pas l'arabe. Mais ça ne veut pas dire si on a l'arabe, on va comprendre directement, non. L'arabe est un des outils pour comprendre le dîn. Et si, زاكم الله خير, l'arabe, elle est nécessaire, Je ne veux pas que tout le monde soit comme Ibn Saibawih, on dit que la langue arabe est comme du sel. Sur le sel, le melh, tu prends ce que tu as besoin. Vous comprenez, ikhwan? La ifrata ou la tafrit. Alhamdulillah, il y a des gens qui, alhamdulillah, maintenant, ils sachent comment lire le Fatiha. Ça, c'est de l'arabe. Ça, c'est de l'arabe. Mais ce qui est nécessaire, ce que l'imam Ahmed a dit dans une phrase majestique, il a dit, on demande à l'imam Ahmed qui est le ilm, qui est un devoir, le ilm, le wajib. قال l'imam Ahmed, رحمه الله, قال ما لا يقوم دين المرء إلا به فهو واجب. Tout savoir que la religion d'une personne ne peut être qu'avec est un devoir. Par exemple, as-salat. As-salat wajib. Donc, le savoir de salat est wajib sur chaque musulman. Maintenant, le hajj, pour celui qui n'a pas la capacité, c'est pas wajib. C'est pas obligé de savoir, maintenant c'est que le hajj. Mais quand le temps arrive, il deviendra wajib sur toi de connaître le hajj. Zakat, t'as pas d'argent. C'est pas wajib pour toi de connaître le zakat. Mais une fois Allah te donne assez d'argent avec un nisab, elle deviendra wajib sur toi de connaître le zakat, la science de zakat. Ana hada ma ladayya an aqulu ya ikhwani barakallahu fikum. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بإسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأنتم واصلوا بارك الله فيكم، واصلوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما مات رسول الله، وما أدراكم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله يجيكم دي زغفة. عمر الكريي خلاص يدي سي كالك مديك البروفة مور في الكوب ستت بوكوان لا في سا بس كي الام البروفة صلى الله عليه وسلم. من أبا بكر رضي الله عنه اللي سوفتي وندي زغ من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات. celui qui adore le prophète صلى الله عليه وسلم est mort. ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. celui qui adore Allah, Allah il est sur le ciel, il mourra jamais. احنا ودي que الدعوة السلفية إن شاء الله et c'est la même chose إن شاء الله que le chef Sabi va le dire qu'elle continuera avec au son les chouyours. C'est ça, il y a une façon aussi pour avoir l'ikhlas avec au son. S'ils sont aussi alhamdoulilah pour eux et pour nous, s'ils ne sont pas ici, Allah a protégé ce dîme et va nous donner une autre personne. Il n'y a pas une grande mosiba que la mosiba qu'on a perdu de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une grande mosiba que ça. Mais Allah لم يتركنا هملا ولم يخلقنا عبثا. إنه ذلك بفضله سبحانه وتعالى من يحمي لنا ديننا من علماء هذه الأمة سلفهم وخلفهم. فأنتم يا إخواني بارك الله فيكم أخلصوا النية، جاهدوا أنفسكم، تذكروا هذه الملذات، أصلحوا ذات البين، كونوا قدوة ومثال. Soyez un exemple pour vos familles. Et c'est ça, la da'wa al-haqiqiyya, c'est par les actes. Wallahi, les frères qui sont en Europe généralement, si vous êtes un exemple pour votre famille, c'est une da'wa. Des fois, tu sors avec le hijab, avec le jilbab pour la femme, et pour l'homme avec le qamis, c'est un genre de da'wa aussi. Donc j'ai dit que l'ilm, là, c'est sur papier, c'est tout, mais l'ilm, c'est pour. C'est pour les actes aussi. C'est pour ça, Ahl al-Ilm disait وَعَالِمٌ لَمْ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ مُعَدَّبٌ قَبْلَ غَيْرِهِ. Il y a un savant qui n'a pas appliqué ou pratiqué son savoir, il sera puni au jour du jugement avant tout le monde. Parce qu'il avait le savoir, il n'a pas réagi, il n'a pas fait des actes. هاي اخوان دونك هذا ما لدي، جزاكم الله خير وبارك الله في شيخنا. لا تنسوا الشيخ بالدعاء، ادعوا الله ان يثبتنا واياه على الحق، وادعوا الله لنا وله السلامه في الدنيا والاخره، ويحفظنا واياكم من كل سوء ومن كل كرب. يا اخواني ويش بدي غير شوز افون ايش تيرمين، هاي اخوان اون با ريبيتي، جزاكم الله خير. جي بارلي افيك الشيخ عبد المالك الرمضاني، j'ai déjà parlé avec Cheikh Chalabi, jazakum Allah khair, en privé sur ça. Et Cheikh Abdel Malik Ramadani, il m'a dit, moi je transmets ce que Cheikh Abdel Malik Ramadani m'a dit de vous transmettre. Il m'a dit, dis-leur de s'occuper de l'ilm. Dis-leur de s'occuper de l'ilm. Évitez al-qil wal-qal. Évitez toute chose qui mène à la fitna. De parler sur des gens, le fait d'essayer de diviser les frères, de la haine entre vous, etc. Mais préoccupez-vous de savoir. Préoccupez-vous avec l'ilm. Aïe, Ikhwan. Et laissez ceux qui veulent dans la fitna la meilleure chose à faire, c'est de ne pas réagir. C'est de ne pas réagir. même des fois s'il vous insulte. Pourquoi? Parce que Allah, il nous a promis qu'il va défendre les croyants. Allah a dit, Inna Allah yudafi'u 'ani alladhina amanu. Allah il va défendre les croyants. Hadi awwal. Deuxièmement, l'islam, on n'est pas ici pour. يعني pour défendre soi-même, on est ici pour défendre le dîn. يعني مع الأسف الشديد, les gens maintenant par exemple, le juhal, si vous insultez le prophète, il ne fait rien. Si vous insultez son peuple, il va te tuer. Par exemple, à la jahl al-nas, سب الله, c'est quand tu n'as rien fait. Il dit, c'est entre toi et Allah. Non. Si tu l'insultes, ou bien tu insultes ses parents, on s'en meurt. يعني يقيم الدنيا والآخرة. Comment tu as insulté ma mère? عجيب. Je veux dire, إخواني جزاكم الله خير, évitez la polychémie entre les frères et sœurs. S'il y a un désaccord entre vous, revenez au Cheikh Mohamed Chalabi. Revenez au Cheikh Mohamed Chalabi. خلاص. Subhanallah, pourquoi يعني الله كفاكم وكفى الله المؤمنين القتال. Allah, يعني, subhanallah, il vous a donné un cheikh avec vous. Pourquoi vous allez vous mêler des choses qui ne vous concernent pas? Khalas, laissez. Il y a un question sur X. On a laisse pour Cheikh Mohamed Chalabi. Et en plus, ça sert à quoi à savoir? Ça sert à quoi à savoir? Laissez, vous êtes avec Mohamed Chalabi? Cheikh Mohamed Chalabi, restez avec Mohamed Chalabi. Sinon, on ne traînera jamais. On part sur X, on part sur Y. Le temps passe, la haine qui est grande entre les frères et les sœurs. On va ouvrir deux salons. Pourquoi? On va avoir deux salons. Les deux salons sont des salons, Inch'Allah, Salafi. Pourquoi pas un salon? Pourquoi pas le hub entre nous? Pourquoi il doit être la haine et celui-là, il m'a critiqué, tu le mets. Vous ne pouvez pas la laisser pour Allah Azza wa Jal. L'imam Shafi'i disait dans un poème sur celui qui l'insulte et lui il ne veut pas répondre. Il khatibun al-safih bi kulli qabh wa aba an akuna lahu mujib. Yani al-safih al-jahil qui traite le cheikh avec tout qabih, tout insulte, mais le cheikh il dit moi je ne réponds pas. Il dit yazidu safahatan wa azidu hilma. Yani il augmente avec ça. Sa safaha, son ignorance, son djahl. Wa ana azidu hilma, une sagesse. J'augmente ton sagesse parce que je ne le réponds pas. Ka'oudin zadahu l'ihlaq utiba. L'oud, c'est un morceau de bois parfumé. Quand tu le brûles, il te donne une bonne odeur. Lui, il essaie de te brûler, toi tu es comme un oud. Quand il te brûle, il n'y a que du parfum qui sort. Pourquoi? Parce que tu ne les réponds pas. Alhamdulillah, khalas, ikhwan. Laissez. Vous êtes ici pour apprendre. Et ça aussi, un conseil à moi et à vous, et frères et sœurs. Parce que d'après mon expérience, quand l'Ahl al-Ilm disait, occupez-vous de l'ilm, parce que tout frère qui s'occupe d'autre chose que l'ilm, il ne va pas apprendre. Il ne va pas laisser les autres apprendre. La haine qui va régner entre les frères et sœurs, et on va perdre notre temps. Ça sert à quoi? À cause d'une personne. À cause d'une personne. C'est pas des dînes, ça. Quelqu'un vient ici. Hein? Vous avez un désaccord sur le frère Abdullah 15. Par exemple. Hein? Sur Abdullah 15. Khalas. Si on oublie Abdullah 15, on avance. Si on n'oublie pas, on n'avance pas. Donc Abdullah 15 est un problème. Haïa Ikhwan, Abdullah 15 est un problème. Ça sert à quoi de parler sur Abdullah 15? Est-ce que ça va vous aider dans votre dîn? Non. Dans votre ilm? Non. Donc laissez l'ashkhas, et s'il y a une question qui est nécessaire et importante, revenons, barakallahu fikum, au Cheikh Mohamed Chalabi. Le Cheikh Mohamed Chalabi, il stafsir, lui, et avec les autres chouyours. Alhamdulillah, vous aurez votre réponse. Yani, vous avez fait confiance au Cheikh Mohamed Chalabi sur les noms, les attributs d'Allah, fut plus important que de lui faire confiance sur des gens. N'est-ce pas, Yahwan? Hein? Si je fais confiance à Cheikh Mohamed Chalabi, pour qu'il me dise que elles sont des ondes sur les noms et les attributs d'Allah, mon dîme que je vais rencontrer Allah avec, je lui fais confiance, mais je ne lui fais pas confiance quand il parle d'une personne. Ça veut dire qu'on n'a pas compris le dîme. Ça veut dire qu'il y a une contradiction. C'est vrai, Erwan, hein? Moi, je préfère lui faire confiance pour ce qui concerne les gens, hein, s'il attend, que de lui faire confiance dans le dîme. Donc, si vous êtes ici, c'est d'être, alhamdoulilah, vous faites confiance au chien. Donc, dans votre dîme, la moindre des choses qu'on peut faire, de lui faire confiance quand il s'agit des gens. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Est-ce que vous m'entendez? الحمد لله. أخي عبد الله كان جزاك الله خيرا. بارك الله فيك هذه النصيحة. نعم. القيمة. إن شاء الله تعالى جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. نعم. Moi avec mon frère عبد الله كان. Yani, inshallah ta'ala, nous sommes anciens, on ne voit pas, inshallah ta'ala, de gêne, y a quelqu'un. Je disais, inshallah ta'ala, vous m'entendez? Non, je disais, inshallah ta'ala, que moi, mon frère Abdullah et moi, yani, qui sommes, bidna ta'ala, anciens, etc. Yani, on n'a pas de gêne quand quelqu'un, yani, fait une remarque à un autre, ou là, montre quelque chose, ou là. Non. Je voulais dire, puisque on est nombreux dans la salle, mashallah, 128, et que mon frère Abdullah 15, yani, a dit un hadith qu'il a cru qu'il était sahih, naam. Et j'ai peur que les autres croient que le hadith est sahih. Et à mes frères, à mes soeurs, yani, le hadith que mon frère Abdullah a dit, je lui ai envoyé en PV, il a oublié de faire la remarque. Naam, j'ai peur qu'on se quitte sans la remarque. Je disais que le hadith qui est très connu, où il est dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si on mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, yani, je n'arrêterai pas cette da'wa, etc. Naam, jusqu'à ce que Allah ta'ala la fasse éclater. Naam, c'est un hadith da'if, comme naam, vous devez, inshallah ta'ala, le savoir. Peut-être même Akhi Abdullah doit savoir qu'il est da'if, faible, et que peut-être il a oublié, c'est tout. Naam. De toute façon, yani, hadith faible, naam. Rome anni kuntu alif no zaif. Naam. Sahih. Cheikh Abdullah a dit, même si je savais que le hadith était daif, mais j'ai oublié. Naam. Quand des fois, un hadith, on reste longtemps sans l'employer, on oublie qu'il est par exemple faible. Et le contraire aussi est vrai. Des fois, le hadith est authentique et ça fait longtemps qu'on n'a pas employé, par exemple, ce hadith, on croit qu'il est faible. On croit qu'il est faible. J'ai vu quelqu'un faire deux fois sur sa tête, les ablutions. Quand il est arrivé à sa tête, il a fait ça deux fois ou trois fois. Naam, je lui ai dit, ce hadith est faible. La sunna, c'est de ne faire qu'une fois. Alors que moi, je savais, et j'avais fait un dars où j'avais dit que la sunna, c'était permis de faire trois fois. Subhanallah l'adhim. Et moi, je me suis contredit, je lui ai dit ça. Et ensuite, je ne sais pas, je suis retombé sur le hadith. J'ai vite pris le micro dans la mosquée. Et j'ai dit que, quand j'ai corrigé à la personne, naam, et j'ai dit que c'était faible, je reviens maintenant, je dis que c'est juste, ce n'est pas faible. Le hadith est authentique, qu'on peut faire trois fois, yani, sur la tête, au lieu d'une fois. C'est une sunna que vous, inshallah ta'ala, ferez, inshallah ta'ala, aussi de temps en temps, bi'idna azza wa jal. Naam. Tayyib, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose avant qu'on quitte, inshallah ta'ala? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose? Pas une question, inshallah ta'ala, une chose, naam. Pas une question. Abu Marwan, tafazal. Ibn al-Qayyim, tafazal aussi.
Assalamu alaikum, il y a du son? Alhamdulillah. Naam, cher, c'était pour vous dire, Inch'Allah, n'oubliez pas de passer le salam au frère Al-Kalem et dites-lui qu'il nous manque beaucoup et que ça serait bien, Inch'Allah, qu'il se reconnecte sur Paul Talk pour pour nous faire des rappels, inshallah. Barakallahu fikoum.
Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez, Cheikh? Est-ce que vous m'entendez, inshallah, Cheikh? Naam. Est-ce que vous me permettez de rajouter un petit enseignement que vous nous avez appris? Vous nous avez appris une chose dans la croyance. Et moi, avec un frère, on a révisé cette chose-là, mais il m'a ramené un enseignement supplémentaire que vous n'avez pas cité dans votre cours et qui sera très très utile contre les Habbash, inshallah, et c'est assez rapide. C'était dans Aqidat al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Vous vous souvenez, Cheikh, vous nous avez appris la règle suivante dans la croyance, que on attribue à Allah que ce qu'il s'est attribué et on enlève à Allah que ce qu'il s'est enlevé. Et vous nous aviez donné des exemples, vous avez dit Allah il s'est attribué une main, et ben nous on croit qu'il a une main, et on ne cherche pas le comment, on ne nie pas, on ne déforme pas, etc. Vous vous souvenez? Et vous avez dit l'exemple que Allah Azzawajal il s'est enlevé l'injustice, et ben puisqu'Allah il s'est enlevé l'injustice, et ben nous on enlève l'injustice. Et donc avec ce frère là, Inch'Allah, il m'a rajouté un enseignement que je voulais vous faire partager. C'est la suite de cette règle. Donc, on attribue à Allah ce qu'il s'est attribué et on enlève à Allah ce qu'il s'est enlevé. Et la suite de la règle, c'est que lorsque l'on parle d'Allah Azzawajal et que on utilise ce qu'on appelle la négation, par exemple le fait de dire Allah n'est pas borgne, on a dit pas, le pas c'est la négation. Allah n'est pas injuste, on a utilisé la négation, on a dit le pas. Allah Azzawajal, j'ai dit, n'est pas borgne, n'est pas injuste, des choses comme ça. Et donc, l'enseignement que le frère il m'a donné, il m'a dit, on doit tester le contraire, naam, voilà. Il m'a dit que, en fait, ce n'est pas un bien quand on parle d'Allah Azzawajal d'utiliser toujours la négation. Et après, il m'a donné l'exemple, par exemple, sur les humains. Imaginez, cher Chalabi, je vous invite chez moi, je vous ramène dans une pièce et il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas. Et je dis à tout le monde, salam alaikum mes frères, mes sœurs, vous voyez, ce frère-là c'est cher Chalabi, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un menteur, ce n'est pas un tricheur. Est-ce que c'est correct de dire ça? Ben c'est vrai, vous n'êtes pas un voleur, vous n'êtes pas un menteur, vous n'êtes pas un tricheur. Mais il est préférable de dire, il est honnête, il est poli, il est sincère, il est sérieux. C'est meilleur de parler à l'affirmatif que de parler au négatif. Et où il est le rad, où il est l'intérêt de dire cette chose-là par rapport à Allah Azzawajal, c'est que ben, vous allez vous rendre compte que les Habbash, quand ils parlent d'Allah Azzawajal, Allah il a pas de main, Allah il a pas de pied, Allah il a pas de tibia, Allah il a pas d'endroit, Allah il a pas de comment, Allah il a pas de direction. Ils ne parlent que de Allah Azzawajal avec la négation. À chaque fois qu'ils parlent d'Allah, ils disent Allah il a pas, Allah il a pas, Allah il a pas, Allah il a pas. Et ben ça, a'oudou billah, le fait de dire ça, et ben ils ont rabaissé leur Seigneur. Ça, astaghfirullah, le fait de parler comme ça d'Allah Azzawajal, à chaque fois qu'on va parler d'Allah, et ben on va dire Allah il a pas, Allah il est pas, Allah y a pas, y a pas, y a pas. Et ben ça, c'est un rabaissement du Seigneur. A'oudou billah. Voilà, c'était juste le complément, inshallah, que je voulais vous donner pour tout le monde, inshallah. Barakallahu fikoum. Allah yhafdik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, je suis là avec vous puisqu'il reste à peu près 20 minutes pour le adhan. Naam, ici c'est bientôt salat al-fajr. C'est à quelle heure? Naam. Il reste une demi-heure à peu près, naam, pour qu'il fasse déjà le adhan. Tayyib, naam, je disais quoi? Ah, ma fiche mouchkine. Je parlais de Osmo. Je rendrai, inshallah ta'ala, bientôt la réponse en ce qui concerne quand est-ce que se termine mon abonnement. Mon abonnement sur Paltok. Ce que tu as dit, Marwan, Abu Marwan, jazakallahu khairan, naam. Et je l'ai fait, inshallah ta'ala, je l'ai bien expliqué, naam, dans au moins deux doros, que, yani, le fait de faire la négation, de dire que Allah ta'ala n'a pas telle chose, c'est justement pour dire qu'il a le contraire. Naam. Car si on disait d'une personne que cette personne n'est pas folle, n'est pas malade, n'est pas ceci, on ne lui a pas fait les éloges. Ni lui faire des éloges, c'est lui dire que vous êtes beau, vous êtes riche, vous êtes ceci et comme ça. Naam. Inch'Allah ta'ala. Naam. Inch'Allah ta'ala, si quelqu'un a quelque chose à dire, je lui donne le micro, Inch'Allah ta'ala. Tayyib. Maintenant, Inch'Allah ta'ala, je dois partir. Naam. Je dois partir, Inch'Allah ta'ala, je dois quitter. Bi'idna subhanahu wa ta'ala. Naam. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, Inch'Allah ta'ala? Tayyib, moi, Inch'Allah, si Cheikh Lazhar est à Adjie en ce moment, je ne sais pas s'il est à Adjie. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est à Adjie, mais il n'a pas à Adjie. Non. C'est quoi cette chose, Abou Marwan, t'fadlan?
Salam alaikum. Cheikh, la dernière fois, la sœur, elle vous a posé une question. Mais moi, j'étais persuadé que, en vérité, sa question, elle l'avait mal posée et que c'est pour ça que vous avez répondu ça. Et Inch'Allah, j'aimerais bien que vous me clarifiez là-dessus. Elle vous a dit, Cheikh, est-ce que le fait de ne pas s'essuyer lorsque l'on fait les ablutions efface les péchés? Vous avez répondu non. Mais moi, j'étais persuadé et je suis parti le dire à la sœur qu'elle, elle voulait vous dire, Cheikh, est-ce que le fait de ne pas s'essuyer lorsqu'on fait les ablutions, quand les gouttes d'eau elles tombent, est-ce que ces gouttes d'eau elles effacent les petits péchés? Et moi j'ai la certitude que la réponse est oui. Donc est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça, Inch'Allah? D'ailleurs la sœur elle m'a répondu non, il aurait dit non et puis elle m'a envoyé balader. Mais bon, khair, Inch'Allah.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai peur que il y ait eu confusion dans ma réponse. Naam. Car la sœur a bien demandé, elle a dit, ce n'est pas si, lorsqu'on fait les ablutions, si les péchés tombent de l'eau. C'est pas ce qu'elle a dit justement. Elle a dit, est-ce que c'est bien de ne pas s'essuyer à cause de, quand on ne s'essuie pas, les péchés commencent à tomber de l'eau. Je lui ai dit, ça c'est pas vrai. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Umm Salama, lui tendait une serviette avec laquelle il s'essuyait. Hein? Et une fois lui a tendu, il a rendu, il a dit, je la veux pas. El-Mohim, ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un fait des ablutions, le moment où il est en train de faire les ablutions, les péchés sont en train de tomber. Hein? Ils tombent de ses yeux, de ses ongles, de son visage, et comme ça. Mais il n'y a pas un dédit que il ne doit pas s'essuyer pour que les péchés tombent. Voilà la différence entre les deux. C'est ça, les péchés sont en train de tomber. Mais après, quand on a terminé le wudu, naam, si on veut s'essuyer, on s'essuie. Et c'est pas, je ne m'essuie pas pour... Je ne sais pas si vous avez compris ou pas.
Naam, Cheikh, naam, j'ai compris, Inch'Allah, on a compris. Vous avez fait la différence entre le moment où la personne fait les ablutions et le moment où c'est plus les ablutions, elle a fini les ablutions.
Salam alaikum. Et du sang? Alhamdulillah. Cheikh, moi je voulais ajouter une chose, Inch'Allah, barakallahu fikoum, de pas nous oublier dans vos invocations pendant ce voyage. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikoum.
Salam alaikum, Cheikh. Vous êtes encore là? Vous allez partir dans 15 minutes, Inch'Allah.
Vous m'entendez, Inch'Allah ta'ala? Alhamdulillah. Alhamdulillah, je n'oublierai pas, Inch'Allah ta'ala, de faire des doigts à tout le monde et je vous demande aussi que ça soit réciproque, Inch'Allah ta'ala, de votre part. Je pense, Inch'Allah ta'ala, j'ai dit que, Inch'Allah ta'ala, je rentrerai, Inch'Allah ta'ala, naam, de temps en temps, Inch'Allah ta'ala, pour vous passer le salam et demander de vos nouvelles, Inch'Allah ta'ala, naam. Quand je serai là-bas aussi, je vous donnerai, Inch'Allah ta'ala, aussi mon numéro de téléphone, Inch'Allah ta'ala, pour quelques-uns. Inch'Allah ta'ala, je n'oublierai pas de vous faire des doigts quand je serai en voyage, Inch'Allah ta'ala. Non. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais voyager. Mais ce que je sais, c'est pendant ce mois, Inch'Allah ta'ala. Et donc, j'espère vous rencontrer très bientôt. Et que Inch'Allah ta'ala, vous resterez dans des salons, yani, des salafs. Hein? C'est pas la peine de vous dire de ne pas rentrer dans les salons, yani, qui sont pas bien. Hein? Et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, même quand vous êtes seul. Hein? Et je, yani, la meilleure de des choses que je puisse vous. En laquelle je puisse vous exhorter, Inch'Allah ta'ala, c'est la piété. Non, la piété, Inch'Allah ta'ala, c'est la seule chose qui puisse nous sauver dans cette dunya et dans l'au-delà. Bi'idna Azza wa Jal. Non. Je vous dis à tous, Inch'Allah ta'ala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide, qui nous guide, qui nous ouvre ses portes, qui nous guérisse, qui nous donne le bien dans cette vie et dans l'au-delà, qui éloigne de nous toute fitna, tout mal, hein, et toute bid'a, et toute désobéissance. Et, Inch'Allah ta'ala, je rentrerai très bientôt pour prendre de vos nouvelles. Quand je serai en Algérie, Inch'Allah ta'ala, je rentrerai aussi dans mon salon, pour vous dire que je suis là et de répondre à certaines de vos questions, Inch'Allah ta'ala. Si vous avez beaucoup de questions, Inch'Allah ta'ala. Naam. Je vous dis, subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilik. Naam, Inch'Allah ta'ala, Abu Marwan. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.